Dans cet épisode de Geekbécois, le podcast,
nous sommes au Mangoté. Le Mangoté, c'est situé au 2011 Saint-Denis à Montréal.
Apple versus Google,
oui. Hein,
les grands ennemis. Cette semaine, Google a fait du ménage.
Les nouveautés de jeux vidéo qui s'en viennent, et nous savons tous qu'il y en a beaucoup.
Premièrement, la date de sortie de Marvel vs. Capcom 3 Ultimate va être le...
Est-ce qu'il y en a de vous qui ont déjà joué à des jeux pen and paper? On parle Donjons & Dragons, Shadowrun, Vampire...
La chef, c'est mon Q.
Oui, bonjour. C'est notre animal de compagnie chez nous.
Hello!
J'ai sélectionné quelques films qu'on pourra regarder pour l'Halloween.
Oui.
Je suis pas du tout allée à la nouveauté. En fait, j'ai pris 5 films que je pense qui sont des classiques de l'horreur qu'il faut absolument avoir vu.
Bonjour de ma belle madame de Gagli. Vous écoutez du potage québécois. Bravo!
Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission numéro 3 du podcast de Geekbécois. Je suis présentement au Mangoté, on va vous en parler un peu plus tard. Je suis avec Jonathan.
Bonjour.
Notre nouveau compatriote Bruno.
Bonjour.
Alexandra.
Bonjour.
Il y a aussi Laurent.
Bonjour.
Il y a Steve.
Salut.
Et moi-même. Et ensemble, je crois bien qu'on va faire tout un show. On a une petite entrevue avec le propriétaire du Mangoté. C'est une très belle place que je vous invite à découvrir. Eh bien, nous sommes présentement avec Robert Milan, qui se trouve être le propriétaire du Mangoté. Et on avait quelques questions à y poser, évidemment, parce qu'on est au Mangoté. On est présentement au 2011 Saint-Denis, à Montréal. Et puis, je voudrais justement demander à Robert Louis, comment ça s'est parti, l'idée du Mangoté? D'où c'est parti?
Alors, c'est parti de loin. C'est parti au tout début. Je suis amateur de manga depuis toujours. Je suis arrivé au Québec il y a 7-8 ans. Et j'avais parfois du mal à trouver ce que je cherchais. Je discutais avec du monde, j'avais du mal à trouver. Bon, il y avait certaines librairies comme le Mangaya qui n'était pas très loin de là où je suis maintenant, qui existait.
Parce qu'il y a des séries qui sont dures à trouver justement de manga. La suite, les suites, les séries, le deuxième livre, le deuxième tome, et ainsi de suite.
Exactement. Les Renobret ne tiennent pas les séries au complet. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de préjugés sur les mangas. Donc j'ai essayé de me dire pourquoi pas trouver une solution pour allier les deux.
Ouais.
C'est parti au début de l'idée d'une maison d'édition.
Ok.
Pourquoi il n'y en a pas au Québec?
Ouais.
C'était pas faisable dans mes moyens, donc j'ai parti une autre idée, je me suis dit un salon de librairie. Donc un lieu où les gens puissent découvrir tout simplement autour de la bonté. Donc ceux qui ont des préjugés ou qui ne connaissent pas peuvent s'installer, découvrir. Et ceux qui souhaitent lire la suite de leur série peuvent tout à fait trouver ce qu'ils veulent.
Puis ici, ça se trouve à être une espèce de bibliothèque qui est assez énorme, puis on se trouve à avoir des collections immenses. En fait, il y en a combien de mangas disponibles environ? Est-ce que vous avez une idée?
Alors honnêtement, je ne les compte plus. Bon, à chaque fois, j'en ai des nouveautés, j'en ai 20-30 qui peuvent arriver par semaine. Donc l'expression que je dis souvent, qu'on est libraire, pour apprendre à être magicien.
Ouais.
Pour essayer de rencontrer tout ça. Je dirais que j'ai plus de 4000-5000 volumes.
Quand même, et plusieurs séries, c'est ça qu'on peut voir. En fait, le type de clientèle qui viennent ici, parce qu'on a vu aussi des gens qui jouaient à des jeux aussi, parce que c'est assez varié, là, on peut faire pas mal de choses ici.
Exactement. Alors, ce dont je suis le plus content, c'est que la clientèle, justement, est très variée. Donc, à la fois des jeunes, comme des cinquantenaires qui peuvent venir se poser pour lire. Au niveau des jeux, effectivement, je me suis un peu diversifié, parce que je tiens à Magic, je tiens à L5R, je tiens plusieurs différents jeux de cartes. Les gens peuvent, dans une bonne ambiance, jouer tranquillement également. Et voilà. Finalement, ça se retrouve assez bien.
Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un beau parallèle ensemble. Je trouve que ça concorde très bien. Puis on a vu, c'est drôle, on a passé quand même l'après-midi ici. Puis on a vu toutes sortes de gens rentrer, que ce soit avec leurs enfants ou même des adultes plus âgés. Fait que c'est super intéressant aussi. C'est ouvert depuis quand, justement?
Ça fait un peu plus de 16 mois. En fait, j'ai ouvert en juin dernier.
OK. Puis, vous avez aussi une grande sélection de thé, justement, parce qu'on est quand même... c'est l'endroit pour découvrir aussi du thé. En fait, on sert quoi, les spécialités? Vous en avez?
Alors, justement, ce que je m'amuse à dire, c'est soit on vient découvrir les mangas, ou on vient découvrir le thé.
OK.
Avec plus de 25 sortes. Les choix, j'ai essayé d'avoir le plus de thé japonais, évidemment. Donc, du coup, j'en ai entre 4 et 5. Mais pour plaire à tous les goûts, j'ai des thés noirs, des oolongs, des rooibos qui sont des boissons santé en réalité. Pour ceux qui n'aimeraient pas trop le thé, essayer d'avoir la plus grande variété possible.
C'est super. Puis moi, j'ai été impressionnée aussi par la qualité du site Internet qui est assez, il est mis assez d'actualité. Il y a toujours, j'avais vu là, que vous aviez 7 nouveautés qui étaient arrivées la semaine passée, je crois. Puis je me suis baladée un peu dans le site. Il est assez complet. Là, c'est facile de se retrouver aussi.
Oui, pour moi, c'est quelque chose d'important pour tenir l'information. Mais là-dessus, je peux vous dire qu'il va y avoir dans les mois prochains d'assez grands changements pour le rendre encore plus d'actualité.
Okay. Oh, ben ça, c'est génial. Et vous êtes aussi sur Twitter. On peut les suivre au en commercial Mangoté tout ensemble. Puis comme ça, ben, on peut suivre aussi. J'imagine que vous mettez toutes vos promotions là, puis les choses qui sortent, ainsi de suite, les nouvelles séries.
Oui, je dois me pardonner à ceux qui me suivent sur Twitter. J'étais assez délinquant les mois passés. J'ai fourni assez peu d'actualité. Mais là, je réveille le Twitter. Il va y avoir toutes les prochaines promotions.
Et c'est vous qui s'occupe de tout?
Oui.
C'est un petit peu, c'est du boulot, là, il faut le dire. Puis moi, je tiens à dire que je suis pas fan de manga. Je veux dire, honnêtement, j'ai le goût de le découvrir. C'est ce que je disais justement avant de m'en venir ici. J'avais le goût de découvrir quelque chose. J'aurais le goût que vous me conseilliez un premier titre pour commencer et que j'achèterai volontiers aujourd'hui pour pouvoir m'y mettre pour une débutante de manga qui s'y connaît pas. Là.
Alors, est-ce que vous aimez les romans policiers?
Oui, j'adore.
Dans ce cas-là, une série que j'ai découvert très récemment, je vous conseillerais Syndrome.
Ok.
C'est l'histoire. Excusez.
C'est bon.
Ça reprend pourquoi un jeune fait un meurtre.
Ok.
Et comment on sent lorsqu'on a fait ce meurtre-là.
C'est assez profond quand même comme sujet.
C'est très profond. Il y a des séries policières qui sont extrêmement connues, comme Monster, plutôt, dont vous allez pouvoir entendre parler. Je trouve que ça se situe à ce niveau-là, tout en étant moins connu.
Ben c'est parfait, je pense que c'est vers ça que je vais me diriger pour commencer, en tout cas, parce que je pense que c'est un univers qui est à découvrir. C'est vraiment, je veux dire, avec le Mangoté, on peut vraiment découvrir plusieurs choses et je vais conseiller à tout le monde de venir voir ça. Au moins, il faut au moins avoir une visite et c'est facile de s'organiser des petites rencontres entre amis parce que l'espace est quand même grand aussi.
Oui, c'est pour ça que j'ai voulu faire deux espaces, comme vous avez vu, l'espace salon, l'espace un peu plus table. On peut s'installer de la manière, si on a envie de lire ou de travailler, on peut s'installer sur une table, si on a envie de s'éloigner entre amis, discuter la partie salon.
C'est super. On va mettre plusieurs photos aussi sur le site internet qui vont être disponibles pour que vous puissiez voir. On va essayer de mettre aussi un petit peu les produits, les thés qui sont disponibles. Et on va vous inviter évidemment à aller visiter le site internet et venir visiter ici au 2011 Saint-Denis à Montréal. Et venez voir Robert Louis qui est très charmant. Et puis, je vais vous inviter à découvrir les mangas comme moi, qui je vais m'y mettre avec Syndrome. Merci beaucoup, Robert.
Merci à vous.
Merci. Alors, bonjour tout le monde. Comme mentionné précédemment dans l'introduction, nous sommes au Mangoté. Le Mangoté, c'est situé au 2011 Saint-Denis à Montréal. On vous invite à venir. C'est vraiment un salon de thé incluant un paquet de mangas. On va vous en parler un petit peu plus en profondeur plus tard. Pour le site internet, par contre, je vous invite à aller visiter le www.manga-t.com. Donc, c'est ça qui est ça. J'espère que tout le monde va bien, que toute l'équipe va bien, que vous avez passé un bon mois.
Oh oui, merci.
Super. Alors, commençons tout de suite. On va commencer avec la chronique à Laurent. Command code verified.
Program is ready. Systems online.
Les actualités techno avec Laurent Chouinard.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien toi?
Très bien assis, oui. alors, qu'est-ce que tu as de bon à nous conter ce mois-ci?
Dernièrement, une semaine très tranquille. Il n'y a pas eu tout simplement le 4S qui est sorti en magasin avec des files d'attente partout, puis bon, ainsi de suite. Fait, inutile d'en parler.
Non,
tout
c'est
le monde
ça. On passe le sujet. Prochain.
Exact. Mais non, mais dans la même lignée, Apple versus Google, hein, les grands ennemis, cette semaine, Google a fait du ménage. Fait du ménage pour faire de la place pour des nouvelles choses. Entre autres, ils vont maintenant s'enligner pour ouvrir un magasin de musique pour vendre, pareil comme iTunes, dans le fond, de la musique aux consommateurs, de la même façon qu'ils ont commencé à... C'est qu'eux autres, dans le fond, ils ont commencé avec le cloud en premier. Il y a présentement le projet permet d'envoyer de la musique dans le stockage de Google pour tous nos appareils. Mais on va maintenant bientôt pouvoir acheter la musique aussi. Donc, un gros compétiteur de iTunes qui s'en vient. Peut-être, comme Amazon, un des prochains gros joueurs. Mais en même temps, ils ont fait du ménage. Ouais. On a flushé Google Buzz.
Oui, c'est ça, j'ai entendu parler. Ils disent que ça n'a pas fait un gros buzz de flusher Google Buzz. Là. C'est ça que j'avais lu.
Le projet Google Buzz qui est miné depuis le début à cause de leurs problèmes de sécurité de l'information confidentielle, ou privée plutôt, des gens qui, dès le début, étaient trop publics alors que les gens ne le voulaient pas. Le projet Google Buzz n'a jamais vraiment bien levé. Hein.
Ça n'a pas levé, non,
ça. Quelques personnes ont joint leur compte Twitter à Buzz pour pouvoir soumettre en double leurs affaires, mais Buzz comme tel, ça n'a jamais vraiment donné un réseau, je dirais, populaire. Même.
Ouais.
C'est resté un projet. Même s'ils ont essayé d'en faire un produit, c'est resté un projet. Un autre qui ont flushé.
Est-ce qu'on sait combien de gens qui participaient à ce projet-là? Parce qu'il reste que, étant donné qu'ils ont coupé ça, Buzz,
là,
toute ça touche combien de monde?
Toute l'intégration de Buzz va s'en aller vers plus, dans le fond, parce que c'est ça, ils veulent unifier la plateforme sociale, donc tout va être sous l'aile de Google+.
Ouais.
Mais il n'y a pas d'intégration du contenu qui a déjà été posté. Donc, tous les gens qui ont un historique de conversation et de posts sur le Buzz, ben ça va juste mourir là.
OK, c'est ça.
On offre aux gens la capacité simplement d'aller télécharger leur contenu avec le projet centralisé de Google pour aller partout dans tous ces comptes là, pour aller lire nos données. Mais à part ça, les serveurs de Buzz vont tout simplement se fermer progressivement.
Mais c'était intégré, excuse-moi, c'était intégré au Gmail, parce que moi, je sais que Buzz, c'était en dessous de ma boîte de réception.
Oui, c'est ça.
Là,
l'interface de Buzz était mise dans l'interface de Gmail, comme ils ont fait pour le chat qui était Google Talk. Mm-hmm. Ben ça va juste disparaître. Mais j'imagine que ils vont plutôt travailler sur une intégration de plus dans l'interface de Gmail ou de mettre Gmail dans plus pour un jour avoir centralisation de tout le contenu social.
Mais c'est quand même intéressant. Mais il reste que c'est triste, par exemple, qu'ils ne puissent pas avoir de suivi. T'sais, quelqu'un qui l'a utilisé, il reste que des gens sûrement qui l'ont utilisé.
Oui, c'est ça, on perd tous les abonnements, tous les amis qu'on a, le contenu qu'on suit, ça, c'est tout disparaît. Il n'y a vraiment plus rien. Ça va complètement être effacé, comme Google Labs, qui était l'endroit de prédilection pour aller voir les projets en test. Ben, ça aussi, c'est parti, le site n'existe plus. C'est fini, plus rien.
Ils ont coupé ça.
Et un outil que les programmeurs utilisaient beaucoup, qui est Google Code Search.
Okay.
C'était une version spécialisée du moteur de recherche Search qui servait à chercher des blocs de programmes, de logiciels dans tous les logiciels open source du monde.
Okay.
C'était pratique pour quelqu'un, un programmeur qui, mettons, doit faire une nouvelle fonction quelconque dans son logiciel, mais se dit peut-être que quelqu'un a déjà fait ça devant moi. Donc, il va aller emprunter du code d'un projet à l'autre. C'était très pratique, mais ça disparaît, puis on ne sait pas exactement pourquoi. Là, j'ai pas trouvé aucune explication.
Puis ça, le côté, ils n'ont pas dit qu'ils vont l'intégrer à autre chose.
Non. C'est vraiment comme un produit bye-bye. Dans le fond, c'est probablement que l'usage, d'après moi, là, personnellement, je pense que c'est que l'usage était trop restreint. Seulement un petit groupe d'utilisateurs
pour les programmeurs,
utilisaient ça et il n'y avait comme pas d'avenue de marketing pour Google là-dedans.
Pas de manière d'évoluer non plus, de faire évoluer leur produit non plus, j'imagine.
Non, puis
eux
autres, ils peuvent probablement pas vraiment utiliser ça pour autre chose. C'est vraiment trop spécifique.
Ouais.
Contrairement à bien des produits sur, mettons, les recherches de produits en magasin qui ont éventuellement migré d'une plateforme à l'autre pour devenir Google Product, qui était à travers les recherches. Ça finit tout le temps par être la même chose, mais pour Code Search, c'est trop spécifique. Il y a juste rien à faire avec ça. Fait, c'est ça. Ça part simplement.
Mais le lab, je trouve que c'est vraiment dommage, le lab, parce que c'était vraiment le fun de jouer avec les différentes options qu'on pouvait mettre dans le Gmail, surtout. C'était vraiment fun.
Oui, exact. Puis là, d'ailleurs, il y a beaucoup de modules dans Gmail qui sont extrêmement utiles, qui proviennent de Labs, surtout pour ceux qui utilisent Google Apps en entreprise. Il y a des correctifs importants, comme pour, entre autres, la signature, là, mettre ta signature à l'endroit où tu écris ton texte, c'est nono comme chose à faire, mais Gmail, de base, ne le fait pas. Il met la signature en bas. Mais il y a un module dans Labs qui ramène la signature avec la réponse. Mais ça, là, ce petit truc-là, ils vont-tu l'enlever aussi ou ils vont migrer les plugins vers les plugins approuvés de Gmail? Ça non plus, j'ai pas trouvé d'information à ce sujet-là, mais j'espère qu'ils vont les faire migrer parce que sinon, la plateforme Google Apps en perd encore.
Ouais.
Probablement que ce qui va arriver avec les éléments de Labs, c'est selon l'utilisation. C'est toujours selon l'utilisation. Si, mettons, on va avec une application que 12 personnes utilisent, c'est clair qu'elle va se faire ôter de là. Mais si on parle d'un autre élément comme justement ton module de signature, que je suis pas mal sûr qu'il y a au-dessus d'un million de personnes qui l'utilisent, ils vont pas enlever ça, ils vont simplement l'intégrer. D'après moi,
c'est ce que j'espère.
Il va y avoir un travail de
OK. Comme code search, il y a beaucoup de... Il y a quand même popé de gens. Est-ce qu'ils vont l'intégrer dans un autre service? Probablement. Mais il ne peut pas exister en tant que son propre service parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Parce que Google, à la base, doit se faire de l'argent. C'est pour ça qu'il coupe des services. C'est pas une charité. Ouais. C'est une compagnie de base de recherche et de pub. Ils doivent se faire de l'argent.
Ils cherchent un côté lucratif tout le temps.
C'est ça.
Fait que, il y a eu du ménage dans les produits. Puis il va en avoir d'autres. Récemment, on avait eu Google Wave qui est disparu. Ouais. Dont je suis vraiment triste. Mais si on peut héberger nos propres Wave, ça va être. Ça va probablement être le fun parce que c'est une super belle plateforme pour les conversations de groupe. Là, j'ai rien trouvé qui remplaçait ça à date.
Pas encore. On cherche toujours, par exemple. tu voulais aussi nous parler d'un GPS, c'est ça?
Oui, ben c'est que la communauté européenne essaie de garder son indépendance par rapport à la reste de la planète sur la technologie. Et un des éléments qu'ils vont aller chercher, un des éléments qui ont décidé une initiative, plutôt devrais-je dire, pour être indépendant, c'est la localisation par satellite, le GPS. Tout le monde utilise le système américain qui a été construit par l'armée. Et il y a aussi un deuxième système qui appartient aux Russes, qui ont aussi parallèlement, mais qui est probablement plus utilisé par eux. Mais les Européens ont maintenant lancé deux satellites qui vont leur permettre de lancer un nouveau système de positionnement par satellite qui s'appelle Galileo, qui vont maintenant commencer à intégrer dans leur système, dans leurs appareils européens. Donc, plutôt que d'utiliser la navigation GPS, ben, des appareils utilisés en Europe pourront utiliser leur propre satellite qui ont pour avantage principal de ne pas être soumis aux règles et aux décisions du gouvernement américain. On se rappelle qu'il y a eu des exercices militaires qui ont fait du brouillage de GPS dans les dernières années, qui ont causé beaucoup de problèmes à bien des gens parce que leurs appareils ne fonctionnaient plus. Plus de localisation par GPS pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, parce que l'armée américaine fait un test, un déploiement ou quelconque, un exercice dans une ville à proximité des citoyens. Donc, avec un système séparé, ils vont être à l'abri de ça. Ils vont pouvoir avoir un système qui est plus fiable.
Oui. Dans le fond, ils reprennent leur contrôle, le contrôle, dans le fond, de leur GPS, de leur zone, si on veut. C'est un peu ça.
Oui, c'est en plein ça. Fait que c'est une bonne initiative, même s'il y a une grosse pollution de satellites dans l'atmosphère. Oui, mais on va voir ce que ça va donner comme résultat. Puis ce que je sais pas non plus, c'est si la disponibilité de leur service va être plus que juste l'Europe. Parce que les satellites de positionnement par GPS sont tellement hauts qu'ils peuvent être visibles par beaucoup de gens ailleurs c'est sûr pas à l'opposé de la Terre, mais beaucoup plus grand que seulement au-dessus de l'endroit où c'est. Fait qu'il y a peut-être une possibilité aussi d'ouvrir des marchés avec des partenariats pour des fournisseurs d'appareils
au moins,
un peu plus grand que juste l'Europe. Là, ça va être à voir. Il y aura aussi pas probablement d'autres satellites. Ils ont commencé par deux, sur une fusée Soyouz, mais ils vont en avoir d'autres.
Parce que je suis pas mal sûr que des compagnies comme Garmin ou d'autres compagnies qui, leur business, c'est justement des GPS. Eux autres, ils aimeraient ça pouvoir accéder à ces GPS-là si, mettons, on télécharge une carte, qu'on soit pas nécessairement sur GPS, mais qu'on puisse utiliser Galileo.
Ouais.
Ou, admettons, le Japon décide de lancer leur propre satellite. Ou, admettons, je donne un exemple, le Canada décide d'avoir son propre satellite. C'est pas mal la logique en arrière de ça, que ces compagnies-là puissent avoir accès à ces satellites-là. Parce que si on commence à dire, ben c'est seulement les compagnies en Europe qui ont accès aux satellites de l'Europe, ça fait un peu pitié que tu es obligé de t'acheter un device par marché.
Ouais, ben là, c'est sûr que tu pars en voyage puis tu peux pas amener ton GPS, ton téléphone marche plus. C'est aussi un peu.
Parce que là, moi, je me demande, est-ce que là, ça va partir une mode que tous les pays vont vouloir avoir leur satellite qui va utiliser leur zone?
Au prix que ça coûte, ce serait étonnant. Là, c'est vraiment comme un cas de la communauté européenne en son entier qui décide de faire ça pour répondre à leurs besoins spécifiques parce qu'ils sont vraiment sandwich entre les décisions du gouvernement américain qui est à l'autre bout de l'océan, puis l'Asie, les Russes qui, font à leur tête. Fait, c'est bon, je pense, c'est logique pour eux d'avoir leur propre système, ou plutôt avoir au moins un système.
Mais là, c'est pas fonctionnel présentement. Là. C'est en projet, c'est
Non, c'est le début du lancement des satellites. Okay.
Bon, ben, on va avoir des nouvelles de ça. Alexandra, tu iras voir en haut sur le satellite.
Personnellement.
Oui, c'est ça. Ça, c'est parfait. On se fie sur toi. Merci beaucoup, Laurent.
Bienvenue.
Super intéressant, deux beaux sujets, comme d'habitude. Merci. Alors, on va passer maintenant à ma chronique. Voici Limbo. Hey, quelle belle chanson. J'adore.
J'aime bien les paroles.
Oui, belle chanson. J'adore le Linbo. OK. Alors, allons-y
c'est
avec...
C'est le voici que j'aime.
Oui, le voici. Ah bon. En tout cas, ensemble, on se complète. Alors, on va y aller avec les nouveautés de jeux vidéo qui s'en viennent. Et nous savons tous qu'il y en a beaucoup. Pourquoi ne pas commencer avec notre merveilleux Batman Arkham City qui sort le 18 octobre. Il va sortir sur PS3, Xbox et PC. Et il nous l'annonce aussi pour la Wii U. Même si la Wii U n'est pas sortie, ils annoncent qu'ils aimeraient le sortir sur la Wii U. Donc, ils vont le sortir sûrement trop tard, comme on disait. Et le monde va tout l'avoir.
Le boss du jeu va être passé.
C'est ça, le boss. Je trouve ça drôle qu'il sorte.
À moins que ce soit un jeu qui va être au lancement de la plateforme et qui va rendre... le launch title en bon anglais, ouais. qui va rendre la console très intéressante, tout comme les Nintendo avaient Galaxy au démarrage, c'était comme le jeu à ouais. avoir. Ben, s'ils peuvent faire la même
ou
chose.
Peut-être qu'ils peuvent faire une espèce de bundle que le Batman vient avec la Wii U qui pourrait
oui,
être super intéressant
ça.
Aussi.
Parce qu'effectivement, il peut y avoir une excellente décision de marketing stratégique ouais. s'ils réussissent à faire un lancement vraiment intéressant avec un bon jeu de départ.
Parce que je suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter un vieux titre à plein prix sur une nouvelle console. Parce que Nintendo a approché les gens qui faisaient des jeux de troisième partie pour la Wii U. Je donne un exemple, il y a Batman Arkham Asylum. Il va y avoir Darksiders 2. Darksiders 2 que je crois qu'il va sortir avant les fêtes, donc avant la Wii U. Ouais. Donc c'est pas mal plein de titres qui vont être en retard. Est-ce que ça va être des titres de troisième partie à rabais qu'on va avoir sur la console? Probablement, parce que faut qu'ils créent un buzz. Parce que pour être honnête, ils se sont trop distanciés, je partirai pas là-dedans, mais ils se sont trop distanciés des joueurs de jeux hardcore pour aller chercher genre les gens qui jouent à Wii Bowling puis ouais. d'autres jeux de genre.
Ben ça, c'est là qu'on va voir à quel point ils vont réussir à intégrer les vieux jeux qui ressortent, mais ça va être intéressant à voir. Ça, c'est pas avant janvier et peut-être plus tard. On verra.
C'est dur de spéculer, de toute façon, la console n'est même pas sortie.
Présentement, c'est 2012.
Ouais, c'est
ça. Tout ce qu'on sait, 2012.
On a au moins
une
année, on va commencer par ça.
Tant que c'est pas le 22 décembre 2012.
Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer aussi le 18 octobre, ça va nous coûter cher, pour les musiciens en vous, Rocksmith de Ubisoft, qui va sortir. Alors, les gens qui veulent apprendre à jouer de la guitare, beaucoup mieux que sur, on s'entend les Guitar Hero, que tu as 4 boutons. Donc, on va y aller avec les vraies notes, les vraies cordes, une vraie guitare branchée dans notre PlayStation, Xbox ou PC. Et puis, vous allez devenir de vrais musiciens. Jimi Hendrix, sortez de là.
Je trouve l'idée absolument géniale parce
j'ai hâte de voir.
Que
j'adore
plein de
aussi.
Personnes ont critiqué les rock bands, les jeux et compagnie du fait que tu n'apprends pas vraiment à jouer de quoi que ce soit, tu apprends à suivre le beat.
C'est ça.
Bon, oui, c'est une chose, c'est le fun, c'est surtout un jeu de party, mais il n'y a pas d'apprentissage.
La satisfaction va être complètement fou quand tu vas réussir à passer une
tonne
à un haut
c'est
pourcentage.
C'est ça, parce
là.
Que une des grandes difficultés d'apprendre un instrument, c'est que c'est difficile. C'est vraiment difficile, puis le faire par soi-même, c'est vraiment pas évident.
Non.
Avoir un système progressif qui te récompense à mesure que tu réussis à faire des choses, ça peut être un stimulant qui fait la différence pour quelqu'un qui se décourage d'apprendre
un
instrument.
Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre en jouant, tout simplement. Ouais.
Est-ce qu'on a vu les guitares? Est-ce que c'est vraiment des vraies guitares?
Ben, en fait, quelqu'un qui a une guitare
tu
électrique
branches ta
à la
guitare.
Maison, c'est ça.
Ah, c'est
bon. Un vrai instrument que tu vas brancher. Il va avoir sûrement un relais entre l'ampli de la guitare ou directement, je pense que tu vas brancher ta guitare dans un genre de contrôleur qui s'en va dans la console. Qui vont interpréter tes notes, que ça va être
c'est
vraiment...
C'est excellent, ça.
Mais oui, il y a un connecteur qui vient avec le jeu qui permet d'interfacer à une prise USB toute guitare qui a un pick-up.
Je pense que ça va être bien le fun,
j'ai
ça.
Juste deux petites questions. Est-ce que le jeu est trop tard pour embarquer sur la vague des jeux de musique? Parce qu'on va s'entendre que Activision a brûlé la mèche par les deux bouts. Et ma deuxième question est-ce que c'est peut-être un petit peu trop niche pour être populaire?
Ben moi, je pense, je le considère complètement à un autre niveau que les Guitar Hero. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté apprentissage qui est complètement autre chose. Moi, je l'avais dit, je pense, dans un autre podcast qu'on avait fait, le côté drum. Moi, je joue du drum. Et si tu joues du drum à Rock Band, il y a vraiment un côté difficulté. Tu peux apprendre, entre immenses guillemets, à jouer ou te débrouiller. Une base, c'est ça, exact. Mais là, je pense vraiment que quelqu'un qui veut apprendre, moi qui aimerais tellement jouer de la guitare au plus profond de moi, puis je suis pas capable, je risque de vouloir m'essayer et me dire, garde, j'ai le goût de la réussir à 100% cette chanson-là. Fait que je pense pas qu'il est trop tard. Pour quelqu'un qui tripe sa musique, des tripeux musicales, je pense pas qu'il peut être trop tard pour sortir
un jeu. De là vient ma deuxième question. Est-ce que c'est peut-être trop niche pour que ça devienne une franchise et qu'on voie un Rocksmith 2 avec plus de chansons?
Ben, moi, je pense que les fans vont rester, les fans du jeu vont rester fans aussi.
Moi, je suis sûr que ça a surtout une énorme valeur de rejouabilité, là. Tu sais, j'apprends une chanson à tel niveau, après ça, je vais essayer de faire tel solo dans telle chanson. Mais tu la joues pour vrai, fait que quand ça te tente vraiment de jouer de la guitare, accompagné par un orchestre qui est directement dans le jeu, écoute, ça doit être une expérience incroyable.
Puis ça peut peut-être s'étendre à d'autres instruments aussi, l'harmonica.
Le piano, pourquoi pas.
Mais je pense que ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est, je me rappelle, il y a très longtemps, quand Guitar Hero 3 est sorti, il y a un article aussi qui était sorti en même temps avec Rock Band qui disait que pas loin de 50% des gens qui avaient commencé Guitar Hero, qui jouaient à Rock Band, avaient le goût d'essayer la guitare, essayer d'autres instruments. Donc, le jeu d'Ubisoft, si bien interprété, pourrait être la prochaine étape logique dans le développement des jeux musicaux, justement.
Ouais, on viendrait d'épuiser toutes les suites logiques de Hero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis ça culmine vers un vrai jeu de vrai apprentissage pour le vrai fan de de toutes les séries précédentes.
Exact.
Et dans le fond, ils viennent peut-être de mettre la cerise sur le sundae de tous les jeux de musical, à part l'aspect party de jouer à Rock Band.
S'ils font pas la même erreur qu'Activision de sortir un jeu à tous les deux mois, que tu es obligé de t'acheter un casser en plastique pour complémenter le tout, parce que c'est ça qui a brûlé la série de Guitar Hero.
Honnêtement, je pense que côté création, ça doit être pas mal une étape de plus que Guitar Hero qu'avoir 5 couleurs, t'sais, on s'entend. Alors, on va continuer. J'adore ce sujet-là. On aurait pu en débattre longtemps. Mais il y a aussi...
Bon.
Oui, c'est ça. On va le tester. Il y a aussi Power Up Hero qui va sortir. C'est aussi un jeu d'Ubisoft qui va sortir le 18 octobre que Claudia de l'équipe de Geekbécois va pouvoir nous tester. C'est sur Xbox. Alors, let's go, Claudia.
Avec la Kinect.
Avec Kinect.
Oui, et Kinect aussi, incluant Kinect, c'est vrai.
Parce que le concept de base, c'est qu'en tant que personnage, un héros, tu vas faire les mouvements nécessaires
comme
pour...
Comme le héros...
Aller chercher les pouvoirs magiques et spectaculaires et tout ça. Donc,
j'ai hâte de voir Alexandra.
Ce soit là vraiment
Alexandra
fou,
Claudia,
vraiment
je veux dire, filme-toi, on veut voir ça. Il y a aussi, pour les fans de la série Sims, les Sims 3 Pets, qui va sortir le 18 octobre sur PS3, Xbox, PC et sur la Wii. Et oui, sort encore des jeux, croyez-le ou non. Il y a quelque chose pour assez intéressant pour Camelot, qu'il faut que je mentionne sur Twitter, et aussi pour Bruno.
Allô, Camelot?
Ah ben, bonjour,
oui,
Camelot.
Bonjour Camelot et Bruno aussi, ça va t'intéresser, je sais. Fruit Ninja Puss in the Boots. In Boots?
Puss in the Boots.
Ouais, c'est un autre.
Pousse dans les bottes.
Ouais,
ça pousse dans les bottes.
On connaît le petit chaboté. Ben, il va nous sortir un jeu avec, si tu veux, connexe à Fruit Ninja, que ça va être le chaboté, en fait, avec son épée qui va pouvoir couper les fruits.
Oh,
donc,
cool.
Ça rajoute... c'est ça aussi pour amener le fait que...
C'est comme Angry Birds Rio. C'est vraiment un tie-in avec un jeu.
Ben ouais.
Un
exactement.
Des enfants sur les iPads.
Oui, ma fille trippe avec Fruit Ninja, fait que ça y est. Là,
avec le chaboté, tu n'auras plus ton ta tablette, là, elle va être...
Il y a aussi une version Kinect qui est, je pense, c'est la version pomme-grenade aussi, que tu as vraiment la pomme-grenade qui était obligée de swinguer comme un mongol pour pouvoir couper la pomme-grenade qui explose après un certain temps, mais c'est un mode bonus. Mais c'est à la Kinect et j'ai vu des gens jouer et c'est particulièrement hilarant de les voir comme... On dirait
qu'ils... excités sur la tablette.
On dirait, là, c'est comme... Ils bougent leurs bras, là, puis on dirait qu'ils sont poignés d'un Parkinson extrême tellement que
c'est
incroyable.
Ça va être sur iPhone et il l'annonce sur PS3. Je ne l'ai pas vu sur Xbox, mais d'après moi, ça me prendrait bien gros qu'il ne sorte pas sur Xbox avec le Kinect. Mais on s'entend aussi que c'est pour le chaboté. Il y a un film qui va sortir exclusivement du chaboté. Fait que c'est un peu pour aller... une petite promotion, quelque chose de cute. Le 25 octobre, on a, attention, roulement de tambour, Battlefield 3 qui va sortir, enfin. Nous sommes contents, nous dansons tous sous la pluie. En tout cas, ça va sortir sur PS3, Xbox, et PC. Et pour les fans comme moi de management, disons-le, FIFA Manager 12 qui va sortir sur PC le 30 octobre. Moi, j'adore ça. Je vais confisquer le PC pour quelque temps. Et juste avant de passer, ben, je finis le mois d'octobre, mais il faut juste que je mentionne, au mois de novembre, il y a Uncharted 3 qui va sortir le 1er novembre. Et le 8 novembre, on a Call of Duty Modern Warfare.
Hello!
Ça sent le fusil dans le salon.
Oui, hein, ça va péter des gueules.
Oui, il va y avoir de la bombe.
Et des petits kids qui vont crier au microphone.
Ah, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
On s'en sauve pas.
Kill him! Bon, en tout cas. Une petite voix aiguë. Alors, c'était c'était ma chronique. Allons-y maintenant avec la chronique de Bruno.
Il est maintenant temps de parler jeux vidéo avec Bruno Pierre-Campeau. Restez assis et écoutez attentivement.
Bruno, t'as eu GLaDOS pour ton jingle.
Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, avoir des contacts un peu partout, même chez Aperture Science. Attends que je prenne Gordon Freeman, il y a vraiment un bon jingle à dire.
Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on va essayer de garder contact parce que ce serait le fun qu'on ait tous des jingles comme ça. Pas de pression, Steve. on va y aller avec ta chronique que tu voulais nous parler, en fait, de Ultimate Marvel contre Capcom 3. Qu'est-ce qui se passe?
Écoute, ça va être un... Dans le fond, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 va être tout simplement un update du titre qui est déjà sorti, qui est Marvel vs. Capcom 3.
Bon. C'est ça, parce que nous, on l'avait à la maison, puis quand j'ai su que tu allais parler de ça, sérieusement, j'avais jamais entendu parler de Ultimate Marvel. Puis c'est justement Steve qui a dit, ben on l'a, comment ça, il en sort un autre. Fait que ça va être juste une suite, dans le fond.
C'est pas vraiment une suite, c'est vraiment une mise à jour, parce qu'ils ont ramassé des commentaires de pas mal tous les joueurs qui ont joué les ligues professionnelles, on s'entend, il y a des tournois. Il y a eu le Evo, qui est le gros tournoi de jeux vidéo qui inclut Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Guilty Gear. Vraiment, toutes les grosses pointures du jeu vidéo au niveau du combat se rencontrent là. Okay. Et ils ont pu ramasser un certain feedback, à savoir quel personnage était cassé, quels personnages sont cheap.
Okay.
À quel point tu peux te cheap-shotter jusqu'à la première place, ça a été testé.
Ils ont fait, dans le fond, du ménage là, dans les personnages qu'il y avait là pour avoir quelque chose de plus actuel. Si
en fait, ils ont changé comment les habiletés agissent. Ils ont inséré de nouvelles, ils ont inséré de nouveaux spéciaux. Écoute, je vais passer ça en détail. Premièrement, la date de sortie de Marvel vs. Capcom 3 Ultimate va être le 15 novembre 2011 okay. sur les consoles PS3, Xbox 360 et attention, PlayStation Vita.
Ah ouais! Ooh.
Et ça va être dans les nouveautés que je vais vous parler. On va pouvoir interagir entre la PlayStation Vita et la PlayStation 3. Attention.
Un peu comme il nous parlait justement dans le ouais. 3 de pouvoir.
Ça va être un des premiers jeux qui va intégrer ça.
C'est bon.
Donc, première grosse affaire à propos de Marvel vs. Capcom 3 Ultimate. C'est les nouveaux personnages. On parle de. Au niveau de Capcom, c'est qu'on va avoir une nouvelle librairie de personnages qu'on va pouvoir intégrer.
Complète? Ah, à intégrer à.
Non. Ben, c'est que en plus des personnages qu'on a dans Marvel vs. Capcom 3, il va y avoir des nouveaux arrivants.
Okay.
Et autant de la librairie Capcom que Marvel.
Ah,
je vais vous les nommer. Il y a Strider Iryu du jeu Strider au NES ou qui a déjà été dans Marvel vs. Capcom 2. C'est vraiment une bête à combo, je niaise pas. Firebrand, qui est un ennemi de Ghosts and Goblins et qui a eu son propre jeu qui est Gargoyle's Quest, un spin-off de Ghosts and Goblins. On a Virgil, le frère de Dante qui embrasse son côté diabolique dans la série Devil May Cry. Frank West, le héros de
Dead Rising
avec sa caméra. Nice. He's covered war, you know. Et on a aussi un des ajouts les plus bizarres, Phoenix Wright, le sympathique avocat de Phoenix Wright Ace Attorney au Nintendo DS.
Objection!
Et oui, une de ses attaques va être carrément, il va gueuler Objection et ça va pogner quelqu'un.
Tu me niaises, tu?
Ah,
non,
Dieu.
J'ai vu le vidéo et je peux vous dire, on cherche, pendant qu'on se bat, il cherche des indices. Quand il y a les trois indices, il peut crier Objection et son Ultimate utilise les trois indices.
Oh, my God. Oh, boy.
C'est vraiment là, c'est lui qui va être probablement le plus compliqué à jouer, mais probablement le plus satisfaisant.
Et est-ce qu'on peut avoir un Objection à l'ajout de lui?
c'est original, on peut pas les blâmer de pas être
original. Non, écoute, c'est probablement l'intégration, surtout quand ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer Phoenix Wright dans... le jeu qui était Capcom vs. Tatsunoko, ils ont fini par le rentrer dans Marvel vs. Capcom, qui a, selon moi, plus d'impact parce qu'il n'est pas juste sorti à la Wii et aux arcades. On a Nemesis, l'antagoniste principal du jeu Resident Evil 3, qui vous a fait faire un saut quand il a passé à travers le mur, quand vous pensiez que vous étiez tranquille. Ben oui, c'est lui. Et oui, il vient avec son lance-roquette.
Mm-hmm.
Donc, au niveau de Marvel, malheureusement, moi, je suis moins un fan de comic book. On a Ghost Rider, du très mauvais film et de la bande dessinée assez passable.
Il va se battre en moto?
Oui, il va se battre avec sa moto. Un de ses spéciales, c'est qu'il pogne sa moto et il te passe dessus, à la Wario, surtout. Doctor Strange, Nova, de la série A Man Called Nova. Rocket Raccoon, de la série Rocket Raccoon. Si vous connaissez le Rocket Raccoon, c'est un gardien de la galaxie qui est en fait un
raton laveur.
Hawkeye, des Avengers et de sa propre série BD. Et Iron Fist, de Power Man et Iron Fist. Iron Fist, c'est vraiment... On parle d'un moine Shaolin que c'est points flash et c'est vraiment le fun. Donc ça, c'est quand même pas pire d'ajouter. J'ai pas compté le nombre de personnages.
Mais il y a quand même beaucoup de personnages, c'est ça d'ajouter.
Écoute, c'est autant qu'on dit que Super Smash Bros. À la Wii a énormément de personnages, là, c'est juste...
Mais est-ce qu'on sait combien qu'ils en ont éliminé de l'ancien?
Ils en ont éliminé aucun.
Okay, c'est aucun. Ça
sont toutes, là. Wow. C'est un ajout carrément. Dans les nouveautés, on a une interface totalement revampée. Le mode de sélection des joueurs, c'est carrément un livre, un comic book. Une page, c'est Capcom. Une page, c'est Marvel. Le mode de combat est totalement changé. Comment le X-Mode, quand on est mal pogné durant un combat, on peut appeler le X-Mode pour varger plus fort.
Okay.
Le gros bémol, c'est quand on active le X-Mode, on se fait péter à la gueule plus rapidement.
Okay.
En bon québécois. Y a de nouveaux costumes pour les personnages existants. Parce que faut pas les laisser dans misère, les pauvres petits.
Ben oui, il faut pas qu'ils soient tout nus.
Non. Il va y avoir des nouvelles attaques spéciales pour tout le monde.
Ah, c'est bon ça.
On s'entend que ça va être probablement un spécial de plus, gros max. C'est juste pour justifier le fait qu'on sort un nouveau jeu. Encore là, je vais vous en parler après. Il y a des changements au niveau des personnages, comme je l'ai dit, au niveau de la balance, au niveau de comment... À quel point il faut limiter les cheap shots, à quel point il faut limiter qu'une habilité vide le trois quarts de ta barre, puis pourtant, c'est pas une habilité niveau 5 parce que tu as une jauge que tu peux monter jusqu'au niveau 5 au niveau de tes attaques habilités spéciales. Et ça va être disponible sur PS Vita. Le jeu que vous jouez sur PlayStation Vita, moindrement que vous êtes connecté sur Internet, votre game va continuer. Okay. On s'entend, tu peux pas mettre un combat sur pause puis continuer sur...
Non, c'est ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu as fait, tes statistiques, tes choses du genre, vont être portées sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Ça se veut à peu près être le même jeu. Sur PlayStation Vita, ça va utiliser de manière assez, je pourrais dire... un peu bizarre, le touchscreen qu'il va y avoir sur le PlayStation Vita, c'est quand tu fais un spécial, ben, frappe ton écran de ton petit doigt et ça va augmenter l'effet.
Ah. Okay.
À quel point le monde va l'utiliser, je ne sais pas.
Je pense que ça va être attesté, c'est
ça. Ça va être attesté, mais d'après moi, ça ne sera pas très, très utilisé comme habilité. Mais moi, je veux vous apporter une polémique, par exemple. C'est le modèle à vendre de Capcom.
Oui.
Parce qu'on s'entend... Vous êtes un excellent exemple. Vous venez d'acheter Marvel vs. Capcom 3.
Oui.
Et là, même pas 3 mois après, on vous annonce qu'il y a une version Ultimate qui est en route. Et contrairement à Super Street Fighter qui ont sorti après Street Fighter 4, Super Street Fighter, si on allait échanger Street Fighter 4 pour Super Street Fighter, on avait un rabais.
Ah, c'est bon ça.
Marvel vs. Capcom, ça sera pas le cas. C'est un jeu que tu paies le plein prix.
Ah, mais tu vois, moi je me disais, une chose qui aurait été bon pour les gens qui ont déjà joué, c'est peut-être de le faire en DLC, tu sais. D'avoir c'est un moyen de justement downloader ces nouvelles options-là et d'avoir les nouveaux personnages quand même. Quelqu'un qui a pas le jeu du tout, ben là, oui, payer plein prix, mais à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant.
Non, c'est sûr, parce que on va s'entendre sur quelque chose, c'est une grosse patch de contenu qu'ils ont donné avec certains éléments revampés et avec les nouveaux disques durs que toutes les consoles ont, je vois pas l'excuse de revendre un jeu au plein prix aux gens qui ont déjà payé simplement pour... Et ça a été le modèle de Capcom depuis longtemps. T'sais, on se rappelle de Street Fighter qui avait Super Street Fighter Alpha, Turbo DX.
Ouais.
Roule ta face sur le keyboard, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est
là,
vraiment...
Il y a des Xbox qui ont 4 gigs.
Non, c'est ça.
Non, c'est sûr. Pour les
on a encore une PS3 qui a 40 gigs.
Ouais, on fait
mais faut laisser l'option aux gens qui ont déjà payé le jeu de pouvoir... avoir ce patch de contenu-là et Capcom ont l'air de d'être encore pogné dans les années 90 où ils peuvent sortir. Parce que dans le temps, on n'avait pas cette option-là. Il fallait acheter un nouveau jeu parce que la cassette, on pouvait pas tout simplement mettre une clé USB dedans. Ou...
Ben, je pense que c'est eux, d'un sens, qui se mettent des bâtons dans les roues parce que nous, c'est sûr qu'on n'ira pas acheter l'Ultimate, même si on peut avoir Phoenix Wainwright qui dit... Non.
Objection.
Objection.
La différence, c'est que
plus,
les fans vont l'acheter parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils veulent continuer d'évoluer et pouvoir tester les nouveaux joueurs,
c'est ça.
Ils sont pognés là-dedans, ils sont pognés dans ce cycle-là. Et de plus en plus, la polémique est que les fans commencent à être tannés de tout le temps dépenser 70$ pour un jeu quand le seul ajout, ça aurait pu être un DLC d'une vingtaine de dollars.
Exact. Exact. À ce moment-là, ça, j'aurais peut-être plus embarqué dans le DLC. Ça, c'est ça.
C'est sûr, mais c'est vraiment ça. Mais sinon, moi, c'est un jeu que j'attends énormément parce que, écoute, c'est vraiment... C'est, si tu joues pas à Super Smash Brothers, c'est le deuxième meilleur. Il y a aussi d'autres jeux de combat qui s'en viennent. Street Fighter X Tekken.
Ouais.
Qui va être assez intéressant, malheureusement.
Est-ce que Eddie va être là? Moi, c'est Eddie, mon meilleur.
Ce que je triste, par exemple, c'est que ça risque de vivre le complexe de Tekken que garde ton ennemi dans les airs, garde ton ennemi dans les airs, puis en bon terme, juggle-le,
ouais.
Il pourra pas te battre. Puis malheureusement, c'est ça le gros défaut de Tekken, c'est que si tu juggles ton ennemi comme un pro, c'est ça que ça va faire. Et écoute, non, moi j'ai juste peur que les habiletés de Street Fighter puissent pas être égales, mais j'ai pas...
Ça va être à juger. J'imagine
ça va être à juger.
Va
aussi avoir King of Fighter 13 qui s'en vient, qui, 13? Comme d'habitude, va être en animation pixel superbe, intéressante avec les personnages. On s'entend que les trois jeux que je viens de nommer, c'est Capcom qui va les faire. Donc, ça va être quelque chose d'assez intéressant et j'ai hâte de voir à quel point ça va peut-être changer la face du monde des jeux de combat, surtout les rustines qui ont ajusté au personnage de Marvel vs. Capcom 3, qui est quand même, je dois dire, il y a des personnages qui sont juste pointy, que c'est ridicule. Je donne un exemple. Amaterasu, quand tu prends son mode épée qui couvre le champ de combat au complet, c'est assez ridicule. Je veux dire, j'espère qu'ils ont fixé ça. Et on verra ça justement en fin de semaine, il y a le Comic-Con
où
ils font des aperçus et des aperçus jouables. Donc on va avoir des premières impressions dans les prochaines semaines à venir.
Puis moi j'ai même hâte au mois de novembre pour voir les ventes justement. Je serais curieuse de voir à quel point que les ventes vont monter. T'sais, si vraiment ça va être intéressant, si ça va être aussi fort que le premier.
Le jeu va se vendre.
Ah c'est sûr, c'est sûr.
Parce que tu viens de mettre...
Par les fans.
Tu viens de mettre Phoenix Wright et Frank West.
Ouais.
C'est niaiseux à dire, mais ça, c'est deux gros points vendeurs parce que les fans attendaient ça depuis longtemps. Frank West a déjà fait une apparition dans Marvel vs. Tatsunoko. Et carrément, il utilisait son panier d'épicerie, il faisait apparaître des zombies, sauf que les zombies pouvaient se retourner vers lui. Tu sais, c'était intéressant.
Ouais, c'est ça.
Donc, écoute, ça reste à voir. On va
surveiller
ça de
près. J'ai quand même, je suis moins emballé que toi, justement, le côté que je trouve ça plate, ce soit pas un DLC. Mais on verra toutes les ventes.
C'est ça, moi je l'ai pas encore.
C'est ça,
quand j'ai entendu dire que le Ultimate sortait, c'est ça la grosse différence.
Ouais.
Mais ça dépend de la personne. Puis j'espère, très honnêtement, que moi, Capcom va se réveiller en disant que tu peux pas faire infini d'argent en ressortant des jeux. Ouais. Si j'achète Ultimate Marvel vs. Capcom, qui dit qu'ils vont pas faire Ultimate Marvel vs. Capcom Turbo?
Oh my god, on n'a pas fini, je pensais que ce sujet-là.
Non.
Merci beaucoup Bruno, c'est super intéressant.
Moi je le veux quand même, je pense.
Oui, bon, une autre affaire, ça va nous coûter cher.
Oui.
On va passer maintenant avec Jonathan Lemonde, notre nouveau collaborateur de l'équipe de Geekbécois, qui va nous parler d'un beau sujet. Restez à l'écoute.
Jonathan Lemonde.
Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Bienvenue dans l'équipe. On est bien content de t'accueillir. En fait, tu as été là au podcast de bimensuel de Geekbécois.
Oui, je me suis tenu à un sujet, mais j'essaie d'être présent dans les coulisses un peu.
Ben, c'est correct ça. Puis tranquillement, pas vite, tu vas prendre ta place.
Exact.
Alors, qu'est-ce que tu as à nous parler ce mois-ci?
Moi, c'est une nouvelle en dehors des gros jeux que j'ai adoré, que j'étais fou de joie. Premièrement, est-ce qu'il y en a de vous qui ont déjà joué à des jeux pen and paper? On parle Donjons Dragons, Shadowrun, Vampire.
Sérieusement, pas vraiment. Moi, je n'ai pas été. Okay. Je pense que Bruno,
un grand fan.
Non, oui, c'est ça.
OK, excellent. Parce que c'est un modèle de jeu qui est intégré en jeux vidéo assez rapidement, mais les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que ça vient de là. Tu sais, c'est des racines qui sont très importantes. Puis, d'où le lien avec ma nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Shadowrun, un de mes jeux de pen and paper préférés, va faire le saut côté jeu vidéo, mais de façon plus adaptée, parce qu'on sait qu'il y avait le jeu Genesis Super Nintendo, je crois, de Shadowrun, qui était excellent. C'était un single player, c'était on s'embarque dans l'histoire comme un Final Fantasy, des choses comme ça, oui. C'était génial.
Mais ça n'avait aucun sens avec le livre.
Oui, mais ça, c'est le livre est une inspiration, on s'entend, c'est pas que la seule source, là. Mais oui. Donc, ils ont fait ça. Ensuite, ils ont fait le jeu de Xbox, Shadowrun, qui était un shooter, qui a pas attiré grande foule parce que c'était pas une bonne adaptation. Tu sais, c'était Shadowrun, c'est pas un jeu de shooter premièrement, c'est un jeu plus tactique. Donc, au lieu de faire un peu comme Donjons Dragons, on défonce la porte, on regarde qu'est-ce qu'il y a à tuer, on le tue, on ramasse les trésors, on s'en va, merci,
ouais,
bonsoir.
C'est ça.
Shadowrun, c'est plus un peu militaire.
Okay.
Vous savez, c'est... mettons, entrer dans un building, aller chercher quelqu'un, faire une extraction, puis on essaie de pas se faire remarquer, des choses comme ça, parce que c'est un milieu qui est urbain, tu sais, c'est moderne.
Oui.
Donc, on rentre, on se fait voir par une caméra, on est fait, ça veut dire qu'Interpol est sur notre dos.
C'est vraiment côté infiltration sans se faire voir le moins possible.
C'est un peu comme Metal Gear, mais avec plus de joueurs, tu sais.
OK.
Fait que c'est ça, c'est ce genre de
mais ça doit être assez dur de quand même de justement d'adapter un jeu pen and paper à l'amener à un jeu vidéo pour qu'il soit crédible.
C'était juste de se dire on va lâcher le côté action parce que oui, veut pas, les combats se font un peu, tu sais, magie, fusil, des choses comme ça, mais fallait juste lâcher le côté shooter. Puis aller chercher le côté tactique, tu sais, des gars, des choses un peu plus avec des tuiles, des choses comme ça.
Ouais.
Ça va s'adapter de façon géniale. Et donc, pour continuer avec ma nouvelle, c'est ça. Ils vont faire un saut sur les web browsers, les furteurs. Ils vont faire un saut sur furteurs. Ça va être développé par la compagnie qui a fait Gothic, Risen, des choses comme ça.
Okay.
Ça va être développé sur furteurs pour justement l'accessibilité à tous les joueurs. Donc probablement même jouer sur tablette, des choses comme
c'est
ça.
Bon.
J'ai pas vu sur quelle plateforme web ça allait jouer, mais ça peut être disponible sur tablette, ça peut être intéressant.
Ça va être payant.
Il n'y a pas encore de nouvelles. En fait, ce que les développeurs ont dit, c'est qu'on va essayer de rentrer ça en système de microtransactions. Donc, ça coûte rien, mais si vous voulez plus de races, plus de choses comme ça, vous allez devoir payer.
Ouais. C'est la grosse tendance.
Oui, c'est la grosse tendance, mais c'est que ça fonctionne. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça donne l'opportunité aux joueurs de supporter les compagnies qui font des bons jeux à leur façon, sans vouloir dire nécessairement « Ah ben là, il faut que je donne nécessairement 20$ si je veux essayer le jeu ou si je veux voir qu'est-ce que ça joue avec la communauté. » À la place, ils font « Ah, mais si je veux avoir un véhicule pour transporter 4 de mes amis, ben je vais payer peut-être 5$, je vais l'avoir tout le temps. » Ça peut être pratique, mais c'est pas nécessaire au jeu. Ça fait
c'est
juste
ça, parce
l'agrémenter.
Que tu es capable de jouer sans le faire anyway.
Exactement.
Un des premiers exemples de succès que je vais te dire le terme anglais parce que ça se dit mieux, free to play, a été Dungeons Dragons Online, Eberron Unleashed, qui a été absolument incroyable au niveau de l'intégration. Parce que juste l'exemple, je peux m'acheter une full plate plus 5 pour m'aider dans mes quêtes. On s'entend, une full plate plus 5, pour ceux qui jouent à Donjons Dragons, c'est pas l'item le plus vergeux du jeu. Et ça, j'ai été surpris. Mais je vais laisser Joe continuer.
Donc oui, comme Bruno a mentionné, j'allais parler aussi des remakes ou des adaptations qui ont été bien faites. Pour les joueurs qui ont un peu plus d'expérience, il y a Neverwinter Nights qui a fait l'environnement Donjons Dragons de façon excellente. Un des outils qui était très important dans ce temps-là, ben même aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir faire ses propres quêtes.
Okay.
Donc, au lieu d'avoir la session le vendredi soir avec ses 4 chums avec la pizza, s'ils sont loin... La personne pouvait passer un peu de temps, faire un module qui était sa quête, puis il y avait tous les outils nécessaires pour faire une quête qui était suivable active facilement, puis il y avait des points de sauvegarde qu'il pouvait activer lui-même, des choses comme ça. Donc, c'était littéralement l'adaptation jeu vidéo de Donjons & Dragons. C'était
c'est fun,
on saute dans l'univers,
pour
on
les
est
gens
rendu...
qui aiment construire justement leur histoire, puis ainsi de suite, c'est parfait là, de faire un suivi, puis ainsi de suite. Là,
exactement.
Qui a un maître de jeu. Là.
Exactement. Puis ensuite, il y a eu Vampire The Masquerade qui est sorti, qui encore une fois faisait une adaptation excellente du jeu Pen and Paper. Moi, personnellement, j'ai pas eu la chance d'y jouer. J'aurais espéré pouvoir le faire, mais j'ai eu des très bons feedbacks de joueurs que ça fait des années qu'ils jouent.
Oui.
Donc, ça, je vais me fier sur leur expérience, malheureusement, pour aujourd'hui.
Peut-être pourras-tu te faire les dents sur World of Darkness, qui sort bientôt avec la permamore.
Si c'est un MMO, c'est sûr que j'y joue. J'adore les jeux multijoueurs, donc je vais essayer de mettre la main là-dessus.
De ce qu'on connaît des jeux pen and paper, j'ai jamais eu la chance d'y jouer. J'ai jamais eu de monde... autour de moi qui est intéressé à ça jusqu'à aujourd'hui. Les gens se mettent souvent beaucoup dans leur rôle, dans la peau de leur personnage pour vraiment avoir une bonne expérience de jeu. Qu'est-ce que ça va donner si ça devient virtuel, par exemple?
Ça va probablement donner des choses comme World of Warcraft ouais. l'offrait, Dungeons & Dragons Online l'offre aussi. C'est que dans la sélection des serveurs qui est dans le fond, le royaume où tu vas jouer, ils vont te dire quelle sorte de clientèle il y a. Donc, il y a les gens qui vont aimer juste le côté jeu vidéo, qui vont jouer okay. sur un serveur vraiment action. Puis, il va y avoir un autre serveur qui va donner le côté, ils appellent ça roleplay, qui est vraiment un jeu de rôle. Donc là-bas, tu vas pouvoir te connecter et dire « Bonjour, Sire, quelle belle journée aujourd'hui! »
Ah, c'est bon, ça!
Puis, la personne devrait te répondre de façon correcte aussi dans le jeu. Donc,
c'est bon.
Un autre côté d'adaptation qui est intéressant. Autre chose qui est très bon, c'est aussi avec Dungeons & Dragons Online, qui était une bonne adaptation aussi. Eux, ils ont tenté le saut plus action. Donc, au lieu d'avoir vraiment le bouton espace qui servait pour faire une pause dans le jeu puis pouvoir planifier ses actions, eux allaient plus avec un clic de souris, faisait que tu donnais un coup avec ton épée. Si tu tenais shift, ça donnait un bouclier qui était tenu en avant de toi pour te protéger, des choses comme ça. C'était excellent. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est que contrairement à, mettons, Borderlands, qui faisait que tu tirais, tu manquais ta cible, tu l'avais manqué, tu tirais, tu touchais ta cible, tu faisais du dégât. Eux continuent encore avec un système de dés que tu vois très clairement dans le bas de ton interface. Puis le dé servait à dire, même dans les vieilles éditions, tu donnais un coup, tu roules ton dé. Est-ce que ton chiffre est assez haut pour te permettre un succès pour toucher? Oui ou non? Il marche encore avec ça. Donc, c'est plate d'essayer de te positionner en arrière de la personne ou des choses comme ça pour finalement donner un coup. Tu manques parce que le dé a décidé que tu manques.
Okay.
Ça... J'ai accroché un peu, mais le jeu est bien adapté pour ce système-là aussi.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça risque d'être intéressant de voir comment eux vont adapter ça. C'est sûr que ça va marcher avec un système de dés, mais Shadowrun est un petit peu particulier. Si jamais les auditeurs veulent aller faire une recherche vite, là, ça marche avec toutes des D6 au lieu d'avoir un D20 qui additionne un chiffre. C'est plus simple.
Ouais.
Personnellement, je trouve que c'est plus simple. Donc, c'est ça. Puis, je pense que c'est
mais moi, je me demandais si, admettons, moi et Steve, on n'en connaît pas, puis je pense qu'il y a sûrement d'autres gens aussi qui nous écoutent qui ne connaissent pas vraiment ça. Si on voudrait, d'après toi, ton avis, un jeu qu'on pourrait faire comme en tant que débutant là-dedans, y a-t-il un jeu, une adaptation que toi, tu recommanderais pour commencer?
Ça va dépendre de votre patience. Honnêtement, ceux qui ont commencé avec aussitôt que Diablo, Diablo aurait pu être classifié comme une interprétation pen and paper parce que ça marche sur les mêmes principes. On a des statistiques, on a une chance de toucher, on a des choses comme ça. C'est pas généré par dés, c'est pas nulle part dans l'interface du jeu, c'est pas mentionné, mais il marche avec les mêmes principes. Donc, c'est un côté plus actif. Puis, ce que le jeu fait, en fait, c'est qu'il prend tout le système plus compliqué du jeu, il gère tout seul, puis toi, il donne juste l'expérience. En fait, il donne un feedback, dans le fond.
C'est bon.
Fait que c'est ce que l'adaptation aux jeux vidéo apporte, qui, je crois, c'est peut-être même une meilleure étape d'intégration que d'aller commencer par un pen and paper.
Directement.
C'est
ça.
Parce que c'est deux environnements complètement différents.
Exact.
Mais quand on veut pas s'embêter avec le système, c'est mieux de laisser le jeu le gérer puis de voir qu'est-ce que nous, ça nous
apporte.
Parce
qu'il y a un côté aussi graphisme aussi que t'as pas non plus avec le pen and paper. Je veux dire, faut que t'aies une bonne imagination déjà en partant, là.
Exact. Mais même les jeux de rôle se sont bien adaptés parce que, à travers les différentes éditions de Donjons & Dragons, ils ont réussi à intégrer le système de cartes.
Okay.
Donc, chez ton maître du jeu, il va amener sa carte. Puis il va pouvoir dessiner les murs, il va pouvoir te montrer où les monstres okay. sont, des choses comme ça.
Pour donc les règles ont évolué. Un peu, là.
C'est ouais. ça, les règles ont évolué plus pour que ça soit facile à concevoir puis à voir où t'es placé, des choses comme ça, que juste te laisser dans le vide puis faire j'étais-tu en arrière de la ouais, porte ou si j'étais en avant, j'avais qu'est-ce que passé, je faisais?
Exact.
C'est ça. Donc là, il se base plus sur le feedback.
Ben ça, on devrait avoir des nouvelles. C'est quand ça sort?
Il n'y a pas encore de date de prévu okay. parce que c'est des projets en construction.
Okay.
Et même pour les fanatiques de jeux de stratégie, ça, c'est une franchise un peu plus vieille, Jagged Alliance,
okay.
qui va être faite aussi en ligne par la même compagnie.
Okay.
Donc, ça aussi, j'ai incroyablement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça.
Mais tu nous tiendras au courant de ça quand on va avoir plus de détails, plus de dates, ainsi de suite.
Absolument.
Et on va essayer de mettre des liens là, pour que les gens puissent avoir un peu une idée visuelle sur le site Internet de Geekbécois,
oui.
sur notre page du podcast.
Oui.
Ben, merci beaucoup, Jonathan.
Mais pas de problème.
Première critique.
Ça fait plaisir.
On a déjà hâte à la prochaine. Merci. Maintenant, nous allons continuer avec Steve.
La
chef, c'est mon cue.
Oui, bonjour. C'est notre animal de compagnie chez nous.
Elle a eu.
De quoi tu veux nous parler? Je pense que tu veux nous parler un peu de bande dessinée en ligne. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens.
Oui, c'est des webcomics que moi, je suis depuis quand même assez longtemps. Je vais y aller avec quelques-uns de mes préférés. Les webcomics sont en fait des bandes dessinées en ligne indépendants. C'est-à-dire, c'est pas des grosses franchises comme des Garfield ou quoi que ce soit. C'est plus produit indépendamment. Puis,
ils sortent pas du tout dans des livres ou dans des...
Il y en a quelques-unes que oui. Et okay. puis, j'ai même une petite anecdote là-dessus un petit peu plus tard.
Fait
que, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de mes préférés. La majorité, malheureusement, ben heureusement pour moi, ça me dérange pas, mais ils sont en anglais. Mais j'ai réussi à en dénicher deux ou trois qui sont en français,
okay.
qui sont quand même intéressants, dont la qualité de production est vraiment bonne pour un produit qui est québécois, parce que les trois françaises que j'ai sont québécoises, dans le fond.
Super.
Fait que je vais y aller avec... j'irai pas en ordre de préférence, je vais y aller en ordre de découverte. Alors, la première que j'ai découvert, c'est VG4, qui est en fait une bande dessinée dédiée complètement au monde du jeu vidéo. J'ai oublié de souligner, ça va être des webcomics qui sont axés sur le monde du jeu vidéo ou sur la culture geek, sauf une exception, et je l'aime pour une autre raison. Alors voilà, c'est ça, VG4, ce qui est...
spécial.
Ouais, c'est une de mes préférées, moi, VG4.
Ah oui, VG4. Oh, oui.
Ah, c'est drôle.
Ils sont vraiment drôles.
C'est écrit et illustré par Scott Ransomware, qui est un Canadien. Si je me trompe pas, un Ontarien, donc c'est notre voisin.
Oui.
Il est super gentil. Alors, c'est ça. Lui, ce qu'il illustre dans ses bandes dessinées destinées aux jeux vidéo, c'est souvent des parodies ou des reconstitutions ou des bugs de jeux vidéo, mais qui sont mises en scène, illustrées avec ses deux chats. Quand Scott a commencé la bande dessinée, il y avait deux chats, un mâle et une femelle, puis il s'est dit, bon, ben ça y est, je me sers de ça.
Il avait trouvé ses personnages.
Oui, de ça comme personnage. Donc, ce que vous voyez dans la bande dessinée, c'est ces chats qui reprennent des rôles importants dans les jeux vidéo ou des situations importantes ou cocasses. C'est super drôle. Ça a une petite... un petit penchant asiatique souvent okay. dans les expressions des personnages, dans le dessin. C'est génial. Moi, je l'adore, puis c'est vraiment la première qui m'a accroché, qui m'a fait vouloir en découvrir d'autres. Là.
Découvrir
c'est...
d'autres comics après ça.
Absolument, oui.
Mais je pense qu'il a arrêté de publier plus régulièrement ses BD. Il en publie une fois de temps en temps,
oui.
mais c'est pas sa business principale.
C'est pas son gang-pain, malgré que maintenant, avec le marketing, il y a plusieurs produits en vente sur son site. Probablement qu'il touche un peu d'argent là-dessus, mais il y a eu une passe aussi qui a été malade pendant un bout de temps, donc il publiait moins aussi.
Ah, OK.
Au début, c'était mise à jour. C'est une tendance qui est omniprésente dans le monde des webcomics, c'est qu'ils sont mis à jour un peu moins souvent vers la fin, ben, dans les moments présents qu'au début. Les gens sont plus enthousiastes quand ils vont créer leur première bande.
Aussi, j'imagine.
Absolument, absolument. Puis une chose à remarquer aussi dans les webcomics, surtout si vous vous intéressez à un puis vous commencez dès le début, vous remarquez que la qualité du travail au début est vraiment différente du travail vers la fin.
Ouais.
Souvent, les gens ont plus de moyens vers la fin, fait
ça.
Que...
la qualité du produit est bonne.
Il l'améliore aussi.
Fait que Scott qui fait VG4, au début, mettait ses bandes dessinées à jour le lundi, le mercredi, le vendredi. Maintenant, c'est un lundi sur deux avec de la chance.
Très beau graphisme.
Ah oui, ses illustrations sont incroyables. C'est vraiment du travail. Puis en plus, je pense qu'il y a un projet connexe à celui-là, qui est une autre bande dessinée, mais plus à partir de croquis plutôt que des grosses illustrations. Alors ça, c'était VG4, que j'adore, qui m'a amené par la suite avec Control-Alt-Delete.
Ah oui.
Ah, un classique.
Ça, c'est incroyable. C'est un comic qui est illustré et écrit, scripté, par Tim Buckley.
OK.
Qui raconte la vie, en fait, de deux colocs, Ethan et Lucas. Je peux-tu le dire en anglais?
Oui.
Ethan Lucas.
C'est beau.
Ah, merci. Qui partagent un appartement. Ils partagent aussi l'amour des jeux vidéo. Alors, c'est pas mal axé sur les jeux vidéo aussi.
Mais c'est sur leur vie aussi de colocataire.
Oui, en fait, c'est ça. Ça les suit dans leur vie de tous les jours. Le jeu vidéo étant le canevas de fond pour ça. Ouais. Il y a des jokes sur les employeurs, aux sourcils, puis sur ça. Le trois quarts des bandes dessinées sont consacrées... À eux en train de jouer ou quoi que ce soit, mais il y a aussi des quelques parodies des fois sur certains jeux qui sortent. Et puis dans celle-là, vous allez voir toutes les bandes dessinées que je vais vous nommer aujourd'hui. Je vous conseille si ça vous intéresse, d'aller les lire du premier épisode. Commencez-les pas
à plein milieu.
Avancer comme elles sont là, parce que souvent il y a des histoires qui partent vraiment de loin, puis vous allez arriver en plein milieu d'une histoire, puis vous allez
dans peut-être... des running gags comme on dit qui se retrouvent.
Vous allez probablement perdre l'intérêt si vous arrivez en plein milieu d'une histoire ou quoi que ce soit.
C'est ce qui m'est arrivé avec Control-Alt-Delete. Les premières années, c'était vraiment intéressant. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Puis à un moment donné, quand ils sont mis à faire le robot Xbox, j'ai commencé à décrocher, puis ça devenait comme plus une longue histoire qu'on suivait de semaine en semaine.
Exactement.
Il n'y avait plus d'éditorial,
et
plus de
critique. Et l'histoire d'amour un petit peu plus tard.
Ouais, c'est ça. Donc là, je suis comme, ah bon, on s'est transformé d'un webcomic à une histoire carrément. Une grande série. Fait que c'est plus
mais malgré tout, il y a vraiment des bonnes interludes où c'est
de
vraiment...
temps en temps, il en sort une bonne.
Et des solides. D'ailleurs, comme Laurent le mentionnait, il y a des personnages principaux qui vont arriver un peu plus tard dans l'histoire. Je ne vous dis pas exactement qui ils sont, même si Laurent en a spoilé un petit peu un.
Mais là, c'est sur Internet depuis une couple d'années.
Non, personne ne connaît ça, c'est moi qui décide.
OK, c'est tout nouveau.
je vous présente les personnages chez Lila et Ezekiel, qui est plus souvent appelé Zeke dans la bande dessinée. Alors, voici pour ça. Il y a Tim Buckley aussi de Control-Alt-Delete fait une petite bande dessinée connexe qui s'appelle Célise. C'est souvent des bandes dessinées en trois cadres, en noir et blanc, super basique, super minimaliste. Et puis, c'est souvent sur l'industrie du jeu vidéo ou de la technologie en général. Alors, voilà. Et ensuite, on va y aller dans un petit peu plus hardcore. Little Gamers. Je dis hardcore, mais c'est pas si hardcore que ça. C'est simplement... que de la façon que cette bande dessinée-là est illustrée, on pourrait croire que c'est des jouets d'enfants qui sont illustrés, mais des fois, les sujets sont quand même intenses.
C'est assez dur, c'est ça. C'est pas toujours...
Alors, Little Gamers, qui est écrit et illustré par Christian Fundin et Pontus Madsen, qui sont deux Suédois, qui ont décidé de faire ce projet-là entièrement en anglais, malgré qu'ils sont de nationalité suédoise et qu'ils habitent là-bas, ils sont pas américains ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment intéressant. Ça parle évidemment de jeux vidéo, mais aussi d'Internet, de technologie. Ça parle beaucoup. Il y a eu une passe dans cette bande dessinée-là qu'on parlait beaucoup de piratage. Ils supportent d'ailleurs le groupe Pirate Bay qui mange quelques volets ces temps-ci.
Ouais.
Mais c'est des supporters très ouverts de ce groupe-là. Et puis, Little Gamer, c'est une des bandes dessinées, d'ailleurs, que tu mentionnais tantôt. Tu demandais si certaines bandes dessinées ont fait des livres.
Oui, OK.
Little Gamers ont sorti 4 volumes de leurs meilleurs comics, mais il y a aussi du stock inédit dans les livres.
Et le fait que... Ils sont disponibles sur leur site à eux?
Vous pouvez les acheter pour avoir une version physique du livre sur leur boutique en ligne sur le site, ou ils sont aussi disponibles en PDF.
Okay.
En téléchargement gratuit.
OK. Ah, oh, c'est bien.
Oui, mais ils ont voulu faire ça.
Je regarde les archives, là, ça remonte jusqu'à 2000 déjà. Ça fait déjà 11 ans.
Oui. Puis j'ai des bandes dessinées qui vont encore plus loin que ça. C'est surprenant, là. Le fait cocasse de ça, c'est si vous téléchargez le volume 3 de leur livre Little Gamers, ma face est dedans.
Ah oh oui, c'est vrai.
ma face est dedans quelque part. Fait que...
Et comment se fait-il arriver?
Ah, ben, c'est qu'ils cherchaient, en fait, qui étaient leurs plus grands fans. Et, ils ont fait un sondage. qu'est-ce qu'on aimait de Little Gamers, qu'est-ce qu'on améliorerait, et puis etc., etc., depuis qu'on devient temps qu'on les suit. Puis il demandait d'envoyer une photo avec. Puis ce que j'ai su trois semaines après, avant que leur livre soit publié, ben bonjour, on voudrait juste que tu nous signes électroniquement un release pour qu'on puisse mettre ta photo dans le livre. D'accord.
Je veux un autographe maintenant.
Hein?
Je veux un autographe maintenant.
Ça va te coûter 50 $.
Je sais, oui. C'est quelque chose.
Ben, c'est pas ça que Stan Lee chargeait au Comic-Con. 50$ pour un autographe?
Ah, mais c'est Stan Lee.
Ouais, mais je suis Steve DeGary.
Oh! Ça rime.
Il y en a pas deux comme moi.
Ça va être 75.
Non, c'est clair.
Alors ça, c'est Little Gamers. Vraiment bon. C'est souvent, comme je dis, les discussions sont axées pas mal sur les jeux vidéo, mais parfois, c'est simplement des discussions de gars. Les auteurs se représentent eux-mêmes dans leur bande dessinée. Ils sont eux-mêmes les personnages principaux.
Okay.
Et puis, voilà, c'est Little Gamers. J'en ai une autre de jeux vidéo en anglais qui s'appelle Dueling Analogues, qui est écrit et illustré par Steve Napierski. Qui est aussi créateur de, malheureusement, du défunt The Outer Circle, qui était une bande dessinée quand même innovatrice dans les illustrations. C'était vraiment super, super bon, mais malheureusement, il a laissé faire ce projet-là pour partir Dueling Analogues,
okay. Qui
est aussi un super beau projet. Alors, c'est celle-là, je vais le passer un peu vite. C'est vraiment sur les jeux vidéo. Ce que j'aime de celle-là, c'est qu'il y a vraiment une variété de personnages drôles. Il y a Mario et Luigi qui reviennent souvent.
OK.
Comme personnages de sa bande dessinée.
Mais dans des situations normales de la vie.
Dans des situations, ben juste pour vous dire, la première bande dessinée que Dueling Analogues a faite, c'est Luigi qui subit un examen du côlon.
Ah! OK.
Alors
okay,
voilà.
Je vois Jean.
Fait que, ça arrêtez-vous encore. Pas à ça. C'est pas pipi caca tout le long, malheureusement. Je veux dire, c'est pas grave. Un autre personnage qui revient souvent, c'est Jeremy de Sony PR Gnome.
Okay.
C'est un gnome, carrément okay. Un lutin de jardin qui est.
Un nain de jardin. Oui. Comme on les aime.
Un nain de jardin engagé par Sony pour faire des relations publiques.
OK, c'est bon.
Et aussi le Xbox. Qui est en fait un cadeau qu'un jeune voulait avoir dans la bande dessinée, qui voulait avoir un Xbox. Ses parents lui ont acheté une boîte en carton, ils ont fait un X dessus.
Okay.
Mais ce personnage-là, malheureusement, mais bizarrement, revient souvent. Et puis, il y a vraiment des dialogues avec les autres personnages beaucoup trop intelligents pour une boîte en carton.
Étant lecteur de Dueling Analogues, il me semble qu'il y a des bouts où les consoles se font des jokes.
Oui, absolument. Il y a souvent des petits meetings de consoles. Pas juste les consoles, il y a eu à un moment donné le DivX Player qui a connu un déclin dans le monde de la technologie à un moment donné. Quand c'est sorti, c'est devenu populaire. C'est ça. Mais ou la Wii qui se fait vraiment rejecter par les vraies consoles next-gen. Il y a vraiment des bons punch là-dedans. Alors, ça clôt pas mal mon volet jeux vidéo pour...
Mais dans cette catégorie-là, moi, j'en ajouterais une.
Excuse-moi, on va voir si c'est la même. J'allais en oublier une majeure.
Vas-y.
C'est Penny Arcade.
Et voilà.
OK, excusez-moi. Hey, je me serais-tu fait fusiller, tu penses?
Oui, alors, on t'attendait dans le parking après l'émission.
Mm-hmm. Oh, mais je parquais super loin.
On marche, puis on va t'attendre.
Bon, c'est laisse ça. Faire. On marchera ensemble. On se rendra pour que tu me slogues. OK, excusez. Penny Arcade... un classique parmi les classiques qui est, m'en a dire en onde, qui est sur Internet depuis 1998 quand même. Chez nous, ça fait 13 ans.
Ben oui, hein, chez nous aussi. On habite à même place.
Ah, c'est ça. Alors, c'est bon.
En année Internet, ils étaient là au début.
Hein, pardon?
En année Internet, ils sont là depuis le début.
Ben, c'est vraiment ça. C'est écrit par Jerry Hawkins et illustré par Mike Kraulik. Et puis, ce que ça fait, c'est que cette bande dessinée-là présente, si vous voulez, leur alter ego, qui sont Tycho et Gabe. Je préfère d'ailleurs ces noms-là, qui sont pas mal plus faciles à prononcer. Ce sont les deux personnages principaux. Et puis, ils parlent principalement de jeux vidéo. Ils font parfois des sauts super drôles dans le monde des gadgets et technologies. Hawkins et Kraulik aussi ont un grand cœur, ont fondé la fondation Child's Play, qui est une fondation qui ont parti de leur propre gré à eux, qui fournit des jeux, autant jeux vidéo ou jeux physiques, des jouets, des livres pour enfants, wow. aux hôpitaux des chevals qui lisent les journaux, aux hôpitaux pour enfants à travers le monde, dont le Montréal Children's Hospital.
Ah ouais, c'est
oui.
Bien.
Et puis cette fondation-là, voyez-vous, elle a été fondée en 2003, et puis... Déjà, ils ont amassé en 8 ans 9 millions de dollars pour wow. 9 millions de dollars en valeur de jeux, de jouets okay. pour les hôpitaux à travers le monde. Sur le site de Geekbécois, je vais mettre l'adresse évidemment de la fondation, ainsi que les adresses pour aller consulter toutes les bandes dessinées que je vous parle aujourd'hui.
Tous les ans, dans le coin de Noël, ils font un souper bénéfice où on peut acheter de billets, aller à dans l'État du Washington, aller voir cette joyeuse gang-là et aussi des grands noms de l'industrie au souper et mettre une quantité absolument obscène d'argent sur des affaires qu'on peut pas avoir ailleurs que les studios de
Dom. Vente aux enchères.
Vente aux enchères. Et quand on parle de trucs absolument obscènes, je parle de, si vous avez joué à Darksiders, la grosse épée officielle de Darksiders qui était dans les studios jusqu'à tout dernièrement a été vendue à quelqu'un, je pense qu'ils l'ont vendue 10 000 $.
Super.
C'est pas de l'argent qu'ils gardent pour eux.
C'est pour des bonnes causes.
Tout va à charge. Puis pour les enfants, moi, je trouve ça génial.
Et c'est des dons que les compagnies font directement à eux. Ils donnent le truc, tout simplement, ils mentionnent leur nom, la vie est belle.
C'est ça. Ils font déjà avec, c'est un des webcomics les plus, qui a le plus de succès, si tu veux, fait qu'ils font vraiment de l'argent avec ça. Eux, je pense pas qu'il y ait d'autres jobs à part ça. Ben, évidemment, ils ont fait des apparitions dans les jeux vidéo. Ils ont leur propre jeu vidéo, en plus, avec les personnages
Tycho et Gabe. On the Rain's Lake of Darkness.
Exactement. Et puis, fait que c'est ça. Ils ont pas besoin de cet argent-là, donc je trouve ça cool.
C'est bien.
Qu'avoir une aussi grosse influence sur Internet t'inspire un geste aussi cool que ça.
Un jour, on fera peut-être ça.
Il faut aussi de l'animation, d'après ce que je vois. Il y a un onglet PATV.
Ah, ben, vois-tu, je ne l'ai pas consulté dernièrement.
Ben, Penny Arcade TV, c'est plusieurs émissions. Ils ont leur série qui s'appelle Penny Arcade, The Series, qui montre leur vie de bureau. Et,
qui est pas mal drôle,
d'ailleurs. En passant aux auditeurs, je suis un gros fan de Penny Arcade, donc je me promets
sur le site. Vas-y,
pour pas que ça sorte out of nowhere. Je veux pas voler la chronique à Steve, mais... Penny Arcade, le site, c'est plusieurs médias, dont PATV. Il y a Two Player Production, il va y avoir qui vont faire le documentaire sur Minecraft. Il y a nouvellement Extra Credits qui a bougé de The Escapist à Penny Arcade. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et,
ça roule.
Ça roule et c'est vraiment leur business à cette heure.
Non, mais c'est ça. Ils peuvent pas ne pas vivre de ça. Écoute, là, ça roule énormément.
C'est les webcomiqueurs les plus riches.
Puis, ben c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Ils donnent aux hôpitaux à travers le monde. Oui, Laurent, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ben il y a quelque chose d'autre aussi qu'ils ont offert à la communauté. C'est pas tout petit. C'est probablement leur plus grosse réalisation. Le PAX.
Oui, exactement. J'allais en parler d'expo. D'ailleurs.
C'est incroyable.
C'est malade, Yannick.
Je te continue de ne pas voler ta chronique.
Non, mais en fait, j'allais juste en glisser un bref mot parce que c'est d'ailleurs une des conférences à laquelle j'aimerais vraiment assister. Là.
Et pour avoir été, c'est trippant, c'est le Woodstock des geeks.
Oui, y a-tu de la bouette? Putain.
Non, il n'y a pas de bouette, mais tu manges comme un cochon, tu écoutes des gens parler et tu peux jouer à des jeux vidéo qui n'ont pas été encore lancés. Ils ont vraiment un showroom à la E3 et ils ont carrément une place. Quand j'étais allé au... je vais essayer de la dire comme du monde. Massachusetts. Bon,
Massachusetts?
Le gros centre de convention à Boston. Nommons-le comme ça. Où il y avait carrément... Et je dis une section à peu près longue d'environ pas loin d'un kilomètre de long de table de jeu où c'est qu'on pouvait simplement jouer à Magic, aux jeux de table, tout ça.
Mais je pense que tu avais écrit aussi une chronique là-dessus qu'on peut aller lire justement sur le site de Geekbécois.
Absolument.
Ben c'est ça. Puis de ce que j'ai lu aussi du Penny Arcade Expo, qui est le PAX en fait, c'est que ça prend de l'ampleur encore à chaque année. Malgré que ce soit déjà gros, ça prend de l'ampleur à chaque année. Fait que moi, ces gars-là, pour moi, c'est des héros.
Et voilà.
C'est des héros. On peut-tu les appeler? On vous invite à souper.
OK.
OK. Alors, voilà, ça, c'est mon volet anglais. Et ensuite, on tombe dans le français.
Est-ce qu'on a en français? Parce que c'est le fun de savoir qu'on en a en français puis que tu puisses nous en proposer quelques-uns.
Malgré que ça a été un petit peu plus difficile d'en trouver, il y en a un peu moins en français, mais il y en a que je suis qui sont vraiment intéressants.
Puis qui sont de qualité aussi.
Qui sont de qualité. Les dialogues, les textes, c'est vraiment bon. Tu vois que c'est pas un gars dans son sous-sol qui a voulu faire ça tout seul comme projet. C'est souvent des équipes qui travaillent là-dessus, puis c'est excellent. Pas qu'un gars qui est tout seul peut pas faire de quoi de bon, mais en tout cas,
non.
Je dis ça de même. Donc, le premier dont je veux parler, c'est La vie en geek, qui est créé par Maxime-Antoine Morin et Gabriel Kelly. En fait, je vais faire un survol rapide de cette BD-là avec les personnages. Donc, les personnages incluent un geek pure race, mais vraiment très affirmé. Un wannabe ninja qui prend plaisir à se déshabiller puis se costumer en ninja.
Okay.
Il arrache son linge, il devient un ninja dans le temps de
n'importe
le dire.
Quand.
Ouais, absolument. Il y a un gamer fan de jeux de rôle.
Okay.
Un chien gentleman.
Okay.
Le petit pitou, il fume la pipe, il boit du brandy en robe de chambre, tu vois, okay. Genre. Et puis, un panda incroyablement sauvage, violent, agressif, qui passe son temps à se faire jouer des mauvais tours par le chien.
Il est assez squelettique, le panda. Là.
Oui, il est assez agressif. Mais... je le veux pas chez nous.
Non, d'accord.
Alors voilà, mais les textes sont super drôles. Il y a quand même pas loin, si c'est pas dépassé, d'une centaine de comics créés par cette équipe-là.
Quand même.
C'est mis à jour fréquemment, à peu près aux 2 semaines, okay. Mais c'est régulier.
C'est régulier. Bon, ça.
C'est ce qu'on aime de comics, parce que quand ça devient
quand ça
une routine...
Quand ça fait un mois et demi qu'on perd l'habitude d'aller voir le site...
C'est ça. Quand ça devient une routine d'aller le voir, puis que là, finalement, tu l'attends, ben, tu peux perdre l'intérêt puis te diriger vers un autre.
Exact.
Fait que si c'est tu suis sur un flux RSS, moi, c'est ce que je fais.
Oui, ben c'est d'ailleurs disponible sur toutes les webcomics dont je parle aujourd'hui. Mais des fois, tu t'attends à le recevoir. Oh, ben, il n'est pas sorti. Ouais. Alors, voilà. Fait que ça, c'était la vie en geek. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Le deuxième produit québécois dont je vous parle, c'est les Jumeaux Techno.
Qui ont aussi un podcast.
Non seulement un podcast, ils font des critiques de jeux vidéo. Mm-hmm. Ils font, le podcast Les Jumeaux Techno et Steve. Ouais. Ils font des critiques de jeux vidéo. Ils font aussi des sessions de jeux vidéo en direct. Oui. Sur Internet. Vous pouvez les regarder jouer. Ils ont mis disponible leur entière bibliothèque de jeux. Vous leur dites « Hey, j'aimerais ça vous voir jouer à tel jeu. » Ils partent le jeu, puis ils jouent, ils commentent, ils tweetent en même temps. C'est vraiment les maîtres.
Ils sont très drôles.
C'est vraiment les maîtres du réseau social. Ils ont ajouté le gaming au réseau social de façon de main de maître.
Est-ce qu'ils sont vraiment jumeaux?
Oui, absolument. Oui. C'est deux frères, Jean-François et Maxime Bédard. Et puis, à voir leurs photos, tu ne pourras pas douter d'une seconde qu'ils sont jumeaux. C'est très identique.
Fait comique, j'ai été à l'école avec eux.
Ah, pas vrai? Ah,
vraiment.
Mais ils sont très drôles. Puis, ils sont très ouverts aussi à la communauté, justement, sur les réseaux sociaux. Ils répondent à tout le monde. Prennent le temps de
Ils sont répondre. Sur Twitter aussi. Puis, on peut communiquer facilement avec eux autres. Ils sont bien cool.
Oui. Puis, le webcomic, parce que c'est de ça que je parle, est vraiment très drôle. Ça couvre plusieurs sujets. En majorité, les jeux vidéo, mais aussi beaucoup la technologie, les gadgets. Puis, vous allez sûrement apprécier ça. Je vous conseille d'aller le voir. Là aussi, d'ailleurs, commencez par le début. Je vais vous le répéter, en fait, pour toutes les webcomics, commencez par le début. Et puis, le dernier, et non le moindre, c'est Mike Comics, qui vient de la gang de Mike Gamers.
Notre belle gang qu'on aime tant.
Oui, qui, eux, ont plusieurs podcasts qui roulent. Et puis,
c'est eux qui font Mike Gamers, qui font Weekend des Gamers, qui font
Fun Jouer Jeux.
Qui font,
des podcasts vraiment écoutés. Ouais. Mais pour vrai, ils sont super sympathiques.
C'est des gens qui ont de l'expérience, puis justement, des écouter, on apprend beaucoup aussi.
Oui, vraiment. Fait que c'est sur Mike Gamers, Mike Comics est créé par Charles-Philippe Savard-Rangé. Il y a beaucoup de syllabes dans ce nom-là, je vais le répéter. C'est Charles-Philippe Savard-Rangé et Yannick Dupuis. Puis c'est ça, il y a plusieurs chroniqueurs du site Mike Gamers qui apparaissent dans la BD. Donc c'est centré dans leur univers.
Il y a Luc qu'on voit, il y a Dartin qu'on voit aussi, Dominique.
Alors c'est ça, c'est super bien illustré, c'est super bien dessiné. Et quand je vous dis de commencer par le premier épisode d'un webcomic, ça c'est l'exemple le plus flagrant. Vous allez là, c'est vraiment... carrément une feuille de photocopieuse qui a été dessinée à la mine, scannée. Et puis,
tu vois vraiment l'évolution jusqu'à aujourd'hui.
Puis là, c'est rendu du Illustrator, Flash. C'est vraiment super bien. C'est du vecteur, mais c'est vraiment super bien illustré. Pas que les premiers étaient mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment... Ils ont évolué d'un style complètement à un autre. Puis c'est vraiment super bon. Les dialogues sont super bons. Ils n'ont pas de format précis, ce que j'aime beaucoup. Ils peuvent avoir du 4 cases, comme ils peuvent en avoir du 16,
j'imagine.
Dont le dernier qui est sorti. Alors, c'est vraiment très bon. Et puis, c'est pas mal de ces webcomics-là que je voulais vous parler. Alors, avant de partir, je m'en vais. Salut!
Bye!
Non, avant de terminer ma chronique, je voulais juste vous dire aussi que pour les gens qui cherchent, comme moi, qui trippent sur les t-shirts ou sur la marchandise geek gamer, la plupart, sinon toutes, ces bandes dessinées-là, sur leur site internet, se retrouve une boutique en ligne que vous pouvez commander justement des t-shirts que pas tout le monde va avoir. Parce que si vous achetez vos t-shirts dans des boutiques spécialisées justement de t-shirts, quoi que ce soit, vous risquez...
De vous retrouver avec deux t-shirts pareils.
Ouais, puis là, tout le monde s'arrache les cheveux, là.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est mon linge! Fait que...
C'est bien fille, là.
Excusez.
Mais tu peux penser que nous autres, ici, Geekbécois, on a des jolis t-shirts.
Absolument. absolument, à consulter sur le site Internet. Mais en fait, c'est des t-shirts qui vont mettre en valeur des œuvres originales.
Oui, puis souvent, justement, sur les sites Internet, on a des chandails, comme tu dis, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Fait comme ça, ben on devient exclusif un peu avec l'équipe.
Un petit peu plus unique, là.
Oui, exact. Puis souvent, ben c'est un lien avec le... Tu sais, c'est bien d'afficher nos couleurs, de montrer qu'est-ce qu'on aime, puis qui qu'on aime.
Et voilà.
Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on supporte les créateurs aussi. Beaucoup avec la marchandise.
Absolument. Exact.
Parce que la publicité sur les sites, ça fait une fraction de leur revenu, mais la marchandise, c'est généralement un bon morceau de leur revenu. Donc, exact. C'est bon.
Fait que moi, je trouve ça important de les encourager. Puis, c'est vraiment des produits de qualité. Ils écoutent des super belles illustrations. Des fois, c'est carrément des inside jokes de tel comique qui se retrouvent sur un chandail que pas tout le monde va comprendre, mais que ceux qui connaissent ça vont le reconnaître. Exactement. Alors, voilà. Puis moi, j'étais curieux de savoir si vous aviez des webcomics que vous suivez sur Internet.
Ben moi, en fait, je tiens juste à dire une chose. Moi, j'ai commencé vraiment à lire les webcomics grâce à toi, parce que tu m'en as parlé beaucoup. Mais aussi, sur le iPhone, il y a une application qui s'appelle Webcomic, que tu as une espèce de liste énorme de centaines de webcomics que tu peux avoir et tu sélectionnes, tu crées toi-même ta liste d'intérêts et à chaque jour, tu peux aller les consulter. Quand il y a des nouveaux, c'est updaté automatiquement. Donc, l'application s'appelle Webcomic et je vous conseille d'aller chercher si vous êtes intéressé aussi à découvrir parce que Steve, c'est sûr qu'il me parle de beaucoup de comics, mais moi, j'en ai trouvé d'autres que j'aime et que maintenant, je suis automatiquement et voilà.
Moi, j'en suis deux aussi en français, mais c'est vraiment des comics de filles.
OK. Ah, oh, c'est bon.
Pour les filles.
Ah bon?
Oui. C'est Pénélope Jolicoeur, la première, qui a maintenant sorti des albums et tout, mais au départ, qui a commencé uniquement sur un site internet.
OK.
C'est un peu genre Sex and the City dans la façon de penser et tout ça. Et Margot Montin. Motin, qui est un peu le même genre aussi. C'est vraiment le truc de fille, mais les graphismes sont vraiment bons. Là. Moi, je trouve ça hilarant. C'est vraiment excellent.
C'est facile à suivre comme format parce que ça prend 15 secondes, tu l'as lu, et puis ben, tu attends le prochain. Fait que ça prend pas beaucoup de temps. Non.
Il y en a trois que je suis qui sont quand même assez intéressants. On parle de PvP Online, soit le qui est considéré le premier webcomic qui est
Player
fait.
Versus Player Online. Oui, je me souviens de l'avoir.
Player versus Player, qui a aussi un panda psychotique qui maintenant tient une boutique de café. Lisez-le. Il y a Least I Could Do, qui n'a pas tout rapport à des trucs geeks, mais qui est quand même très intéressant à lire. Et Looking for Group, qui se veut une parodie de tout ce qui est médiéval.
Ouais, c'est bon, il y en a. Mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui pourraient même nous en faire découvrir parce que je pense que. Puis on pourrait justement inviter les gens qui nous écoutent à aller sur la page de Geekbécois puis nous en conseiller parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend justement sur l'univers des webcomics. Puis,
moi, je suis toujours ouvert à en découvrir de nouveau.
Ben oui.
Parce que comme je dis, 15 secondes, tu l'as lu, ben là, t'attends le prochain. Fait que moi, j'ai ma liste à tous les jours.
Ouais, mes abonnements. Aussi.
Puis plus j'en ai, mieux c'est. Là. C'est le paradis pour moi.
Si vous avez entendu la chronique à Steve et vous vous dites « Ah, ils n'ont pas parlé de tel webcomics », ben allez-y, écrivez-nous-le.
Comme d'ailleurs, j'ai oublié d'en mentionner une aussi.
Ah oui?
Très rapidement, c'est The Perry Bible Fellowship.
Ah oui, qui n'est pas, il en fait plus, lui. C'est
qui n'est
fini,
pas,
mais...
ben, il n'y en a pas sorti une.
Il a recommencé à en faire. Alors, j'aimerais abonner parce que ça, c'était vraiment bon.
Ce n'est pas du tout du jeu vidéo, ce n'est pas du tout du geek. C'est de l'humour noir, décapant. Vous allez vous surprendre à être coupable de rire des jokes qui peuvent être écrites ou illustrées, qui souvent, c'est des BD qui souvent n'ont même pas de texte, juste vraiment les illustrations véhiculent vraiment le message sadique.
Ben c'est bon parce que justement, comme celui d'Alexandra qui nous propose sur d'autres thèmes complètement différents que des thèmes de filles, celui-là, c'est sur d'autres styles. Nous, on a parlé surtout des jeux vidéo, mais il y en a sur tellement de thèmes. Aidez-nous à en découvrir, puis nous aussi, on va vous aider. Et quand on les aura lus, ben, on vous en donnera un petit feedback, pourquoi pas. Il y a Laurent aussi. Laurent, t'en as.
Oui, j'en ai. Moi, je suis un gros maniaque de comics en ligne. Fait que j'en ai toute une liste. Je vais en rajouter sur notre post sur le blog.
OK.
Mais une couple que je veux mentionner ici aujourd'hui, en français, Stouff et Jean Ouf. C'est deux designers, des graphistes en France. Donc, il y a l'humour de style français que j'aime bien. Okay. Puis, la qualité des dessins, l'art, c'est vraiment, vraiment super beau. Ils sont designers, fait qu'ils vont à fond dans leur création. Ils sont vraiment drôles. Dans la catégorie du un peu psychomaniaque, là, Red Meat. C'est une référence dans le complètement débile, genre des affaires pas possible, qui se décrivent pas, là, mais que c'est vraiment drôle.
Ok, je suis vendu.
C'est dans l'humour très, très noir, en dessous de noir foncé. Là.
Oh, Jonathan noir aussi,
il y a aussi dans les weird, okay. Amazing Superpowers et Saturday Morning Breakfast Cereal, mes deux préférés.
Ouais.
Saturday SMBC Morning Breakfast Cereal, ce qui est le fun, c'est que c'est très scientifique. Ils font de l'humour sur la science, sur la technologie, des trucs sur la recherche. Ils se moquent beaucoup des chercheurs et des méthodes de recherche. Donc, l'aspect scientifique, ça fait drôle de voir de l'humour là-dessus.
Dans les web-comics.
C'est d'ailleurs souvent des comics qui sont plus long à lire aussi SMBC, Saturday Morning Breakfast Cereal.
Oui, oui, c'est des 7-8 panneaux la plupart du temps. Oui.
Jonathan, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ben ma liste à moi, ben il y a sur le site de VG4, on en a parlé très, très vite. Il y a aussi, M. Ransomware fait aussi une section qui appelle Super Effective, qui est toutes des comics qui sont reliés à Pokémon. Tous okay. ceux qui ont joué à Pokémon, au Game Boy, des choses comme ça, puis qui ont remarqué des choses qui se pouvaient pas, lui, il les a notées, puis il a fait okay. des comics
ah, c'est
là-dessus.
Bon,
puis c'est complètement débile.
Ah, je vais aller
mais,
voir ça.
Il y a celle-là. Sinon, il y a aussi 18 ans et plus. Il y a Treating Ground qui traite okay. des relations hommes-femmes, mais vraiment d'un côté, tu sais, genre le gars qui travaille chez Couchetard, mais toute sa vie, tu sais, okay. puis il sait pas où il s'en va, des choses comme ça, puis il y a une fille qui rentre dans sa vie, puis bon, comment il se débrouille avec ça, c'est vraiment drôle. Personnellement, je trouve ça drôle, mais oui, donc ça, c'est les deux que je suis.
C'est et parfait,
j'ai
ça.
J'ai oublié un classique oh. quintessentiel pour les geeks, XKCD.
Ah, ben ah oui, les bonhommes à Loomis.
On n'aurait pas eu un bon show si on n'avait pas au moins nommé celui-là.
C'est vrai.
C'est on s'en sert des fois comme référence en programmation juste parce que
le Balmer
ce qu'il y a à dire, c'est à la fois drôle, mais souvent très profond sur les mauvaises compréhensions qu'on a sur des problèmes simples. Comme un récent que j'aime beaucoup, c'est sur les mots de passe. Il fait un exposé sur l'absurdité de faire des mots de passe ultra complexes en termes de qualité des caractères, mais ultra courts, ce qui est à peu près l'équivalent en complexité de deviner que juste une phrase longue avec juste du texte.
Ouais.
Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile, selon lui, puis je suis d'accord avec lui, de se rappeler d'un très long mot de passe simple que d'un très court mot de passe complexe.
J'ai vu celui-là, oui. Écoute. Je l'ai vu, il a tourné pas mal sur le...
Oui, parce que c'est vrai ce qu'il dit, là, par rapport à la difficulté de craquer un mot de passe du genre, si on fait juste une longue phrase, c'est pratiquement impossible.
Ouais. Il a aussi fait un algorithme mathématique pour les urinoirs, mais je n'irai pas en détail. Allez lire s'il est vraiment intéressant.
Ben, en tout cas, comme on peut voir, je pense que ce sujet-là, on pourrait en parler très, très longtemps.
Moi, j'aimerais ça.
Ça,
on
ça
va
peut
mettre
un peu
notre
penser,
liste.
C'est comme un peu quand on passe sur le rétro gaming. Là, on passe sur le webcomic pour pouvoir en parler pour une soirée de temps.
Le meilleur exemple, c'est Geekbécois Extra, hein, Steve?
Ah, mercredi, exact. On aurait pu s'étendre longtemps. Là, on est tombé dans la nostalgie. Là.
Oui, j'ai écouté ça. Puis même moi, j'avais le goût d'en rajouter en vous écoutant. Fait que c'est
Geekbécois
bon, c'est...
Extra, d'ailleurs, à ne pas manquer à chaque deux mercredis à 20h.
Yes.
En direct.
En direct.
Tous les détails sur geekbecois.com. Voilà, ma plug est faite.
Ben, merci beaucoup, en tout cas, Steve. Super bon sujet. Et
merci.
On va y aller avec la chronique de Alexandra.
La chronique cinéma et télévision vous est présentée par Alexandra Gervais.
Bonjour, Alexandra.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Oui, tu veux nous parler d'un sujet qui est d'actualité en octobre, les films d'horreur.
Oui, les films d'horreur. J'ai sélectionné quelques films qu'on pourra regarder pour l'Halloween.
Oui.
Je ne suis pas du tout allée à la nouveauté. En fait, j'ai pris 5 films que je pense qu'ils sont des classiques de l'horreur qu'il faut absolument avoir vus. Donc, depuis les années 80...
Jusqu'à
nos
maintenant.
Donc, voilà, je vais commencer avec un premier film qui, je pense, c'est le seul film qui m'a vraiment, vraiment fait peur. Je ne suis pas vraiment peureuse pour ces trucs-là, mais alors celui-là, il m'a vraiment fait très, très peur. En fait, l'histoire du lancement du film, c'est qu'il a été lancé comme un documentaire.
OK.
Non pas comme une fiction.
OK.
Donc, les gens, ils allaient au cinéma en pensant qu'ils allaient voir quelque chose de vrai.
Ok, un documentaire.
Le film, c'est le projet Blair Witch, qui raconte l'histoire de trois cinéastes qui vont faire un documentaire dans la forêt sur la sorcellerie, qui se perdent et on retrouve la vidéo un an après. Donc les gens, ils allaient au cinéma en se disant, ok, les gens
vrai,
là, ils
vrai.
Ont vraiment
ouais.
disparu. On a, ouais. on sait, il y a peut-être vraiment une sorcière et tout. Donc ils avaient vraiment, vraiment peur en sortant. Et
c'était bien réussi.
Le marketing était
la
exceptionnel.
La manière dont c'était filmé, c'était un peu aussi
c'était filmé à caméra unique, en fait. Et puis, on voit la fille qui se filme elle-même, tout ça. On ressent le froid de la forêt. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Et ce qui était assez exceptionnel aussi, c'est qu'ils ont pris des acteurs qui n'étaient absolument pas connus.
Non, c'est ça.
Ils n'ont fait aucune promotion autour du film. Enfin, en tout cas, les acteurs, là, aucune promotion autour du film. Donc, on pensait vraiment...
Justement,
que
en ayant fait
histoire.
Aucune promotion, la promotion était bonne.
Tout le monde a embarqué, c'est ça.
Exact.
Ouais. C'est un film à très petit budget qui a fait beaucoup d'argent finalement.
Ouais.
Le deuxième film que j'ai sélectionné, c'est The Ring, mais ah, oui. La version japonaise.
Ah, l'original.
L'original, pas la version américaine. Je trouve
que, c'est... j'ai pas vu.
Non.
Qui est moyenne.
Regarde la... C'est ça, c'est pas intéressant, l'américaine. Ouf. Ouais. Ouais. À voir en japonais, je pense que c'est vendu comme Ringu.
Oui.
Pas sûr. Et en VO, obligatoirement.
OK.
L'histoire, c'est deux filles qui s'amusent à se faire peur.
OK.
Et il y a une légende qui circule, encore une fois, autour d'une vidéo. Si on regarde cette vidéo, 7 jours après, on meurt.
Ok.
Et oh, une des deux filles aurait peut-être regardé la fameuse vidéo.
Ok.
Donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le spectre de la femme habillée en blanc, avec des longs cheveux noirs qui lui couvrent tout le visage. Là, je pense que mon cousin, ça lui a hanté ses nuits pendant, ah oui. pendant des années. On s'amusait d'ailleurs à le faire. De...
ah, oui, c'était une cruauté.
Question de bien le hanter.
Oui, c'est ça. Qui est emballé jusqu'au bout. Donc, non, c'est vraiment bon. Puis ça rappelle aussi le théâtre no japonais à la base. Ouais. Donc, c'est vraiment cool à voir. Troisième film que j'ai sélectionné, c'est So.
Okay.
Qui était vendu comme Décadence, sorti en 2004.
Ouais. Ça, c'est dans mes tops. La série de ça, oh boy.
Ouais, c'est vraiment bon parce qu'on fait un peu un suspense comme dans Alien. Ouais. En fait, dans le premier Alien, on ne voit pas la bête, on ne voit pas le monstre vraiment. Donc, l'anticipation fait encore plus peur que de voir le monstre en tant que tel. Pendant les trois quarts du film, là, le premier Alien, on ne le voit pas.
Non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fin de film, tu es surpris.
En tout cas, exactement.
Moi, ça m'impressionne. À chaque fois, je ne me doute pas de la fin, là, vraiment. Ouais.
Et So, c'est le même principe. Donc, l'histoire, c'est deux hommes qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent enfermés dans une salle de bain. Et le défi, en fait, ils se connaissent pas. Donc, ils savent juste que l'un doit tuer l'autre.
Ouais.
Ou sinon, dans 8 heures, les deux vont mourir.
C'est ça.
Donc, c'est un petit peu un huis clos, comme dans la pièce de, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Paul Sartre, L'enfer, c'est les autres. Ouais. Là, on part vraiment de ce thème-là, puis ça donne un très bon film. Les autres, puis il s'est tombé, là, 3, 2,
dans
3, 4,
les deux acteurs qui sont là, il y en a un qui est plus connu que l'autre, et l'autre se trouve à être le réalisateur du film.
Ouais.
Puis, il n'y avait aucun budget, ça a été fait, ça a été c'est tourné pareil. Dans une pièce, qui est la pièce de la salle de bain. Donc, puis c'est sorti un peu underground, ce film-là, ça, tu sais, on n'en entendait pas parler, puis là, tout à coup, ça s'est mis à évoluer, puis maintenant, c'est rendu un succès.
C'est vrai, comme Blair Witch, en fait. Les films à petit budget qui pognent le plus au niveau de l'horreur, on a l'impression.
Puis même plus c'est gros, ça, moins on embarque finalement.
Ouais,
le premier va rester le plus grand classique
c'est
à voir.
C'est pas parce que tu vas faire des gros monstres, du sang, tout ça, que les gens vont embarquer. Exact. Ouais.
Un autre exemple de film à petit budget, si puis je me permettre, c'est Paranormal Activity, le premier. Le deuxième avait du budget.
Oui, c'est ça, exact.
J'ai sélectionné aussi Hellraiser.
Ah, pas vu.
Classique de l'horreur des années 80. Les années 80, c'était comme la grande époque là, de l'horreur. Donc, c'est tiré d'un livre de Clive Barker.
Okay.
Donc là, dans ce film-là, on a tout pour résumer l'horreur. On a des démons, on a des zombies, on a une méchante belle-mère, on a une jeune fille innocente, on a du sang.
Ouais, c'est des classiques.
Comment on dit le package.
Oh, oui, c'est ça. Le bon menu faut, pour les bons ingrédients pour faire le meilleur film.
C'est ça. Si vous voulez tout ce genre-là, c'est celui-là qu'il faut aller. Hellraiser de 1987. Faut passer outre les costumes.
Ouais.
Parce que là, on voit bien les épaulettes, les années 80. Là, c'est.
On est dedans, là.
On est vraiment dedans. Mais le film est pas mal. Honnêtement, le film est pas mal. Et mon dernier film, que je pense qui est un des meilleurs qui a jamais été fait, c'est The Shining.
Oui,
1980 de Stanley Kubrick,
ouais.
Qui est tiré d'un roman de Stephen King avec Jack Nicholson. On connaît tous le plan légendaire quand
il passe
à travers la porte avec la hache. Là. Here's Johnny!
Oh, c'est trop bon.
La seule chose que je reproche à ce film-là, c'est que je pense qu'ils ont pris l'actrice la plus laide.
Oh my God,
qu'ils auraient pu trouver.
Elle l'a joué, c'est vrai.
Ah, c'est pour ça.
La première fois que je l'ai vu, j'ai dit ressemble à Olive. Puis on a fait une recherche, puis officiellement, elle a joué Olive avec Robin Williams. Elle avait fait la Olive, ça n'a pas d'allure comment elle ressemble. Ah, née, puis c'est Olive.
Vraiment laide. Et puis on se dit, c'est peut-être juste pour son jeu, mais elle joue pas si bien que ça non plus. Donc
non, c'est ça. C'est comme une joke. Je sais pas pourquoi. C'est assez. Non, mais c'est vrai. Vraiment bizarre, cette fille-là. Mais puis c'est drôle. J'avais lu aussi dans IMDb, qui se trouve être une espèce de référence incroyable dans les films, puis dans les anecdotes de films. Quand ils ont tourné l'espèce de passe qui est l'hiver, là, qui se trouve être l'hiver. Ben en fait, ça se trouve être du sable blanc qu'ils ont pris parce que c'était aucunement l'hiver à ce moment-là. Il n'y avait pas assez de neige. Fait qu'ils ont utilisé du sable blanc pour recréer cet événement-là. Et ça se trouve que ça a été l'enfer à tourner justement pour les caméras et ainsi de suite pour un paquet de.
Puis en plus, avec un petit
petit enfant qui avait quoi,
avec le petit enfant, avec le petit sable. Depuis ce temps-là, il fait de l'asthme. Non, je sais pas.
Non, je pense que j'avais lu une légende comme quoi il lui avait dit qu'il tournait genre une comédie ou quelque chose comme ça. Ils lui ont dit à aucun moment que c'était un film d'horreur.
Ah, ben ils ont bien fait parce que crime. Non, mais c'est un. Oui, puis c'est un film, c'est drôle parce que c'est un film que tu sursautes pas vraiment. Mais que, mon Dieu, que ça te travaille après que le film. Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment bon. C'est super bien joué. Ben, mon Dieu, on a beaucoup de films. Moi, j'en ai deux, en tout cas, qu'il faut que je vois dans ta liste. Et on pourra en rajouter ça aussi, encore plusieurs. Puis on va inviter aussi les auditeurs à aller ajouter des films d'horreur que vous avez aimés et que vous allez vouloir partager avec nous. Pourquoi
pas? Une petite
pas?
Parenthèse juste, si vous aimez les zombies, The Walking Dead saison 2.
OK, oui.
Il arrive là, le jour où on fait le tournage, là, ce soir. Donc, vous pourrez le voir
À la diffusion. Mettez-vous là-dessus aussi. Genre, on va avoir de l'écoute, beaucoup de jeux vidéo et beaucoup de choses. On va y aller avec nos maintenant très classiques orange et citron. Alors, je vais commencer. Je vais commencer cette fois-ci. Je vais commencer.
Ah oui, c'est toi.
C'est moi qui commence. Et je vais commencer avec mon orange qui est complètement à l'opposé un peu de ce qu'on parle depuis le début. J'avais le goût de faire ça parce que je suis fan aussi de musique. Et j'avais le goût de mentionner l'excellent album d'Evanescence, le nouvel album. Mm. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter.
J'ai pas eu le choix, c'est ça qui jouait dans l'auto tout le long ensemble.
Avec ma voix qui accompagnait la chanteuse. Et je tenais juste à faire une petite mention. Je sais que c'est un petit peu moins geek, mais je pense qu'on a tous le droit d'aimer la musique aussi. Le dernier album qui avait été sorti, c'était en 2003, qui était sorti. Et moi, je l'avais aimé, mais j'avais hâte d'entendre quelque chose d'autre. Et puis finalement, c'est là, en 2011, qu'ils ressortent un nouvel album qui est excellent. Ils l'ont appelé Evanescence, celui-ci, parce que eux autres considèrent que maintenant, cet album-là est digne de porter le nom Evanescence parce que c'est leur son. Ils ont trouvé vraiment ce qu'ils voulaient faire. La chanteuse est excellente, comme on l'aimait déjà beaucoup. Et ils ont une belle maturité, ils ont une belle profondeur, ils ont des violons, ils ont du piano, c'est incroyable. Chaque chanson a tellement de complexité, puis en même temps, ils vont chercher vraiment la touche qu'on avait besoin pour faire évoluer Evanescence.
C'est vraiment bon.
Oh oui, c'est excellent. Bravo, bravo, bravo.
C'est notre Nightwish américain.
Oui, exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je vous conseille à tous d'aller l'écouter. Je vais essayer de mettre le clip aussi sur la page québécoise parce que ça vaut la peine. Et elle n'est pas laide du tout, cette fille.
On va pas dans l'auto avec toi pour le retour?
Oui, mais vous pouvez tout venir dans l'auto.
Tout le monde dans l'auto.
On va faire de la place. Là. On va enlever le banc d'auto. Ça va aider le banc de bébé. Alors, ça, c'était mon orange. Et puis, mon citron. Eh bien, c'est un déjà-vu récent qui est très inquiétant. Laurent, ça me fait penser à une espèce de petite citron que tu as. Non, c'est-à-dire, c'était pas un citron, c'était une de tes nouvelles. Il y a un vieux télescope spatial allemand qui tombera sur la Terre dans les prochaines semaines, avant la fin d'octobre. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça.
Et oui, sur nos têtes à nouveau.
Oui, et ça, c'est le satellite s'appelle Rosat, qui est en fait sûrement
un satellite rose,
c'est ça, quelque chose de même. Ils ont à peu près les mêmes probabilités de frapper quelqu'un que la dernière fois, ce qui est super intéressant.
Mais plus proche du Canada.
Oui, beaucoup plus proche du Canada, malheureusement. Et d'ailleurs, ils disent que ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que le Rosat pèse en tout 2,4 tonnes, mais ce qui risque de tomber sur Terre, c'est 30 pièces d'1,6 tonnes. Non, ça marche pas mes affaires. Mais en tout cas, ce qui risque
gros
de tomber sur
qui
Terre,
tombe
oui, il y a quelque chose de avec lourd, mais en pièces détachées. Fait que ça va faire comme une espèce de un paquet de balles qui risque de tomber.
Ben ça, c'est toujours ça parce qu'ils se brisent dans l'atmosphère en entrant.
Exactement.
Fait, ça finit par un paquet
mais
de pièces.
Mais eux autres, ils considèrent qu'il y en aurait 30 qui pourraient arriver à toucher la Terre, ce qui est quand même énorme. Et aussi, on a eu une petite information que j'ai trouvé bien cute. À date, il y a à peu près par année 10 à 30 satellites qui frappent la Terre et qui est incontrôlé. Fait que c'est rassurant. Sortez des parapluies en béton, nous en avons tous besoin.
C'est les poissons qui mangent la volée, là.
Ben oui, c'est ça pour l'instant, parce que ça a frappé le Pacifique la dernière fois, mais cette fois-ci, on vise vraiment le Canada et l'Amérique du Sud, donc restez chez vous, les enfants. Nous
ça
allons
pas passer en France récemment, il y a quelques jours, il y a eu une météorite qui est tombée dans la maison de quelqu'un.
Hein?
Ils sont réveillés la nuit, il y a eu un trou dans le toit, c'est une petite pièce, quelques centimètres, mais il pleuvait dans la maison, il y avait un trou dans le toit fait par une météorite de 4 milliards d'années.
Surprise,
ils
ont été chanceux, job de toiture.
Oui, c'est ça, ils ont été chanceux que ce soit.
Pas dire ça à l'assurance en plus, je vous assure, une météorite est tombée sur moi. L'assurance va dire, oui, bien sûr,
c'est ça.
Voyons.
Oui, c'est ça. Un gros trou. Non, je ne suis pas sûre que les assurances, enfin, on appellera le gars et on pourra.
Le golf à haute vélocité.
Oui, c'est ça. On va passer maintenant avec les oranges et citrons de Laurent.
Oui, ben mon orange, c'est pour l'application Facebook iPad. Enfin, et je dis bien enfin, Hein, il y a déjà le deuxième iPad qui existe. On commence à se demander qu'est-ce que le 3 va avoir l'air. Et là, enfin, Facebook sort une application.
On dirait qu'il l'avait oublié. Hein?
Ouais, c'est, je sais pas, les millions d'utilisateurs, c'est pas assez.
Non, c'est ça.
Bien que le site web est fonctionnel, l'application mobile était absolument horrible à utiliser sur une grande surface comme le iPad.
Ouais, ça restait tout petit, ouais.
Oui, c'est ça. Puis pourtant, sur le iPhone et iPod, ça fonctionnait bien.
À part tous les bugs, ça va très bien.
Ça. Il y a beaucoup de bugs. Oui.
Je veux dire, à chaque update que je reçois de l'application Facebook sur iPhone, enfin, la synchro va marcher. Non, ça marche pas. Mais oui. Fait qu'un orange quand même pour l'effort parce qu'ils ont fait enfin quelque chose de bien qui est exactement la même chose que l'iPhone. C'est la même nouvelle application, mais
avec
le format...
Avec les mêmes bugs aussi, inclus.
Mais c'est parce que le nouveau format dynamique s'adapte à la taille de l'écran, ce qui fait qu'on peut profiter d'un grand écran.
Ouais, c'est bien.
Contrairement à mon prix Citron, qui est la même chose pour les tablettes Android, l'application Facebook sur Android et toutes les autres applications de médias sociaux sur les tablettes, incluant Google Plus sur les tablettes comme le iPad, c'est horrible. C'est toute l'application du téléphone qui a été juste agrandie. C'est inutile. C'est une perte d'espace. Il n'y a aucun effort qui semble être fait pour les applications format tablette. Il y a comme un gros retard, là.
Mais je trouve ça niaiseux dans le sens qu'il n'avait pas fait, qu'il livre pas un matériel, voyons, qui est aussi bon sur l'un que sur l'autre. Dans le fond, ça reste que c'est Facebook. Tu sais, ça reste que c'est...
Ben oui. Moi, sur ma tablette Android, je vais uniquement sur le site web de Facebook. Je peux pas utiliser l'application. C'est juste trop ridicule.
C'est vraiment ridicule, officiellement.
Fait qu'un gros citron bien pressé pour tous les développeurs d'applications de médias sociaux. Parce que ça s'arrête pas là, là. Les applications Twitter aussi sur tablette, c'est horrible.
C'est horrible.
Tout le monde
a tellement de difficulté à trouver l'application Twitter parfaite ou juste la bonne application Twitter.
Oui.
Il y a des défauts partout.
Twitter sur iPad est vraiment bon.
Sur iPad, ça marche, mais sur iPhone, sur Android, c'est-à-dire, c'est encore seulement l'application mobile qui est agrandie un peu et qui donne vraiment rien
d'usage. J'ai payé 1,99$ pour accéder à Plume, qui est, ma foi, très excellent. C'est à conseiller si vous avez 1,99$.
Essayez, je vais aller voir ça.
On va y aller avec Alexandra pour orange et citron.
Oui, je vais commencer par mon orange. Donc, c'est avec à peu près 5 trains de retard que je découvre une super série qui s'appelle Breaking Bad.
OK.
Qui en est déjà à la 4e saison, là, que je viens juste de découvrir cette semaine.
Génial.
C'est le fun de découvrir une série qui a du retard parce que
tu peux
saisons.
Tout regarder d'un coup. Ouais. Excellent.
Nous, chez nous, quand on tombe dans une série comme ça, c'est en rafale. Ben on tombe là-dedans, puis on les regarde, puis c'est bon, puis on les regarde toutes. Ouais, c'est mieux que attendre d'une semaine à l'autre. Oui. C'est vraiment le fun de faire des blitz. Disons, 4 épisodes aujourd'hui, là, on se claque ça, puis ça avance vite dans l'histoire.
Les coffrets DVD pour ça, c'est en plus, t'as pas la pub et tout ça, c'est tellement bon. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous raconter juste un petit peu l'histoire. C'est un prof de chimie qui a toujours été bien rangé dans sa vie, qui a toujours tout bien fait, qui a une femme, un enfant, tout ça, à qui on annonce qu'il a un cancer incurable. Et vu qu'il est prof de chimie, il décide de se lancer dans la production de crystal meth.
Ok.
Et donc, il devient meurtrier, il devient tout ce qu'on veut, en fait, dans ce petit laps de temps qu'il croit qu'il lui reste, en fait. Et c'est vraiment très drôle, c'est super
parce
bon.
Parce qu'il est confronté à quelque chose de fort au niveau psychologique, c'est qu'est-ce que je laisse à ma famille versus mon impact.
Mais là, ça fait 4 saisons qui...
Ah là, j'en suis à la première.
C'est ça. Ah oui, on ne
volera pas des punchs.
Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas plus, moi non plus. Là. Fait que je ne vole pas de punchs.
Mais je pense qu'il survit parce qu'on est à la 4e.
Oui, c'est ça, à la 4e, ça devrait pas pire. Là.
Mais il n'y a pas un running gag que le gars de Breaking Bad, dans une de ses affiches, ressemble étrangement à Gordon Freeman de la série Half-Life.
Oui, ça a été fait en infographie sur Internet. Il y a quelqu'un qui a carrément juste rajouté un pinch puis des lunettes. C'est vraiment... Vraiment le même
personnage. La vieille version de Gordon Freeman.
D'ailleurs, c'est le papa de Malcolm dans Malcolm in the
Middle.
Oui, il était tellement bon aussi.
Ton citron, Alexandra?
Mon citron. Donc, je vous avais parlé dans le premier podcast de Terra Nova.
Oui.
Que je trouvais que c'était une série attendue, qu'elle allait être tellement bon et tout.
Ça sent les tomates.
C'est absolument pas le cas. C'est horriblement mauvais.
Ah ouais.
Honnêtement, il y a du budget, on ne peut pas le renier, on ne peut pas le nier, mais les effets spéciaux sont ratés, l'histoire est très mauvaise.
On n'est pas dans Jurassic Park du tout, là.
Ouais, c'est clair. C'est et les acteurs ont été super mal choisis, donc vraiment, c'est très, très décevant.
Comme beaucoup de nouvelles séries, c'est
cette
une
année,
chute spectaculaire.
Cette année, je pense qu'ils ont battu des records, c'est vraiment mauvais.
Alors, d'après toi, il n'y aura pas de deuxième saison là-dessus?
J'espère pas.
Les codes d'écoute, sais-tu qu'est-ce que ça a l'air?
Je sais pas, mais les critiques sont pas bonnes.
Tu avais annoncé, Alexandra, dans les séries qui s'en venaient, Person of Interest.
J'ai pas aimé.
J'ai commencé à écouter, c'est une habitude à prendre, c'est quand même bon. Là, fait que si t'en avais pas parlé, je pense que je me serais pas intéressé à cette série-là, mais juste le fait que tu l'aies mentionné, on est rendu au troisième épisode, il y a le quatrième bientôt, puis j'aime ça. Okay. Fait que des fois, on s'habitue en chemin, mais j'ai lu beaucoup de mauvais commentaires sur Terra Nova, malheureusement.
J'ai vu Pilote, puis j'ai laissé faire. Moi, c'est comme Panam, là, j'ai pas été plus loin que trois épisodes, en fait.
Ah. Donc, moi, ce que j'ai entendu, c'est comme une version de Stargate avec des dinosaures. C'est pas fort.
Non. C'est ça. On va y aller avec Bruno, Orange et Citron.
Donc, mon Orange, je la donne à notre rencontre qu'on a faite la semaine passée avec Naoki Maeda, avec Alex et Jean-François. Une rencontre où c'est que j'ai, pardonnez-moi l'excès de langage, j'ai quasiment fait dans mes shorts. parce que c'est notre première entrevue avec une grosse pointure des jeux vidéo. Et pour être bien honnête, c'est une personne qui a été extrêmement sympathique. Je pense que Alex, qui était à côté de moi, peut en témoigner.
Ouais, adorable.
C'était à quelle occasion?
C'était au lancement de Dance Dance Revolution 2.
D'accord.
Et mon Citron va à... En fait, j'en ai deux. Il y en a un qui va à Diaspora, qui m'a envoyé un beau courriel justement la semaine passée, me demandant 25 beaux dollars pour garder leur compagnie en vie parce que, voyons, on est dans un esprit de communauté. À ça, je réponds, désolé Diaspora, je t'aiderai pas. Non. Pour la simple et bonne raison que je me fous de ton service.
Mais c'est dommage parce que c'était quelque chose d'absolument révolutionnaire qui aurait pu, et qui peut peut-être encore, changer la façon dont notre information est partagée sur Internet. Moi, je crois encore au service de Diaspora et j'espère qu'ils vont réussir.
J'espère qu'ils vont réussir, mais d'après moi, en têtant de l'argent à leurs membres, ça fait pas attirer les investisseurs. En fait, c'est que les investisseurs vont faire « Oh,
ça va pas bien. » Ça va pas bien.
Ouais, mais quand tu es confronté à un mur, c'est ça où on ferme le projet. Ben,
je pense que tu essayes toutes les options. T'essayes.
Il y a des projets qui ont été sauvés par des dons de dernière minute.
Exact.
Ou... Dont Reddit.
Ouais. Et merci,
et
mon Dieu.
Et mon deuxième, c'est le modèle de vente de Capcom qu'on a parlé plus tôt, tout simplement.
Parfait. Jonathan, Orange Citron?
Oui, moi j'ai un orange et un citron. Alors, je vais commencer par le citron. Alors, mon citron que tout le monde va probablement s'attendre, c'est Steve Jobs qui nous a quittés.
Ah, oui.
Mais moi, c'est plus pour la raison suivante, c'est que Steve Jobs a fait beaucoup pour Apple et personnellement, je crois qu'on va commencer à avoir le déclin d'Apple.
Ah oui, tu penses vraiment
c'est
que...
C'est mon intérêt personnel, c'est parce que j'ai regardé, je suivais un petit peu les nouvelles parce que mon père est informaticien, puis travaillait pour Apple, des choses comme ça, donc j'ai été initié assez vite au
produit,
cercle
ouais.
du produit Chanceux. Et tout. Là. Et puis, mon Dieu, c'est incroyable ce que Steve Jobs avait. Entre autres, il y a des parts dans Disney. C'est lui qui a créé la compagnie.
Dans Pixar aussi,
oui. Ouais,
ben, il y a des parts dans Disney de la vente de Pixar.
Ah oui, OK.
Oui, parce que à la base, il avait pris des parts de LucasArts, qui était le côté informatique. Avec ça, il a fait Pixar qui a été racheté par Disney, okay. Il s'est ramassé avec 7% de Disney. Quand il est parti d'Apple, il a décidé de faire une compagnie de logiciels. Ben, au début, c'était hardware, software, donc les pièces, puis ensuite aussi les programmes. Ça marchait so-so, il a décidé de faire juste du programme avec. Et les programmes que Next a fait, c'est Mac OS X.
OK.
Ça l'a muté comme ça.
Oh,
donc, c'est quelque chose que, d'après moi, c'est un apport qui est vraiment important. Puis que, étant donné que Steve Jobs n'est plus là, personnellement, je crois
ça
que
plus,
sans son innovation, ils sont finis, là, d'après moi.
C'est pas n'importe qui est parti.
Oui, puis c'est aussi ça. Que la culture d'entreprise, c'est très, très difficile à maintenir. Puis ça prend un dirigeant d'entreprise qui a une vision très, très bien établie, qui est capable de communiquer à toute sa gang pour qu'une entreprise au complet puisse adopter sa philosophie puis son idéologie puis avancer dans une direction. Puis je pense que sans lui, même si les prochains dirigeants vont prendre de très bon calibre, ils n'auront peut-être pas la recette que
mettons
lui
Cook
avait.
Il n'a pas le même charisme que Steve Jobs déjà partant.
Oui, exactement. Ça aussi, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe derrière, dans son bureau, la façon que lui interagissait dans
sa
communauté. Comment est-ce qu'il réussissait à donner sa passion à tous ses employés, je ne sais pas si on va revoir ça. Fait que, ouais, je suis d'accord avec la probabilité.
Il a été décrit souvent comme un tyran au travail, mais il y a une de ses citations que j'aime vraiment beaucoup. C'était « Good artist ships
».
Dans le sens où, t'as beau être un artiste, s'il n'y a personne qui te comprend, ça ne sert à rien.
Exact.
Si tu ne donnes pas le travail qu'on te demande, ça ne sert à rien. Si tu veux être un bon artiste, fais quelque chose qu'on te demande. Donne le produit auquel on s'attend.
Oui, et j'ajouterais même que ça... C'est maintenant une des bases de la méthode de programmation agile, qui est un modèle de développement d'applications de jeux qu'on applique maintenant de plus en plus, qui fait que...
Ben, pas juste le jeu, les sites web.
Oui, mais développement.
Ouais.
Et puis, c'est basé sur le concept fondamental de « il faut shipper ». quelque chose qui marche au client, qui fait ce qu'il veut, puis graduellement en rajouter, ouais, au lieu de travailler à l'infini vers la perfection et jamais l'atteindre pour finalement lancer un produit qui ne fonctionne pas tout à fait. Exact. Et là, je cite en exemple le parfait, la démonstration parfaite, le playbook.
Oui, oui.
Oh mon Dieu.
En effet,
une, non, mais...
Et puis... Oui, une aussi au début, c'est vrai, ça a été...
Et ton orange?
Et puis oui, mon orange. En fait, j'ai deux oranges. Alors, mes deux oranges, la première va à Dark Souls. Jeu que je ne sais pas si vous avez eu... Si
tous mes collègues au bureau sont dans ce jeu-là. Puis...
C'est incroyable. J'ai littéralement gaspillé, on s'entend bien, pas. J'ai progressé dans le jeu. J'ai littéralement gaspillé au-dessus de 8 heures de jeu. Ah, ouais. Ça ne me dérange pas. On prend ça avec un sourire et on recommence.
C'est un jeu qui vous transforme en homme.
Pas le choix. Pas le choix. Si on veut être un homme...
Et qui build aussi la patience, on s'entend. Hein,
c'est incroyable.
C'est ça ou la manette dans TV.
Exact.
C'est incroyable parce que c'est totalement différent. C'est pas un cadre où on va aller chercher la catégorie de joueurs qui s'appelle les overachievers. Vous voyez, ouais, ceux qui vont aller chercher les achievements ou les accomplissements qui sont optionnels.
Ouais.
On te force à prendre ce chemin-là.
Pas le choix.
T'as les ennemis qui sont là, tu les tues pas, t'avances pas, c'est fini. Donc, sois un homme, fais-les. Merci, bonsoir. Ça,
et
c'est,
je pense
c'est...
que les gens qui vont passer à travers ce jeu-là vont avoir grandi et évolué.
Ben c'est que c'est oui. un c'est un
ou encastrer leur
ça a
manette
été ça
dans
pour
le mur.
Demon's Souls
oui, c'est que... ça, ouais. Exact. Les gens qui le platinent là, j'ai beaucoup de respect quand je vois t'as platiné Demon's Souls, je suis comme OK, oh. C'est bon, je suis pas de taille.
Il y a beaucoup trop joué, c'est sûr qu'en développant, en commençant à jouer, tout il y a des tactiques qu'on développe, ouais. Choses comme ça. D'ailleurs, je voulais faire le review, je voulais faire le résumé de Dark ouais. Souls, sauf que je veux vraiment mettre le temps dedans parce que c'est incroyablement
mais
difficile.
Mais j'espère que tu vas le faire, par exemple, parce que
oui.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'attendre. Aussi.
C'est juste qu'avant de faire un résumé d'un jeu comme ça, je veux essayer de me rendre le plus loin possible. Pas faire juste, ben j'ai passé 8 heures, mais ouais, j'ai fait 3 points de sauvegarde. Passé 8 heures
pas
en 3 points de sauvegarde.
Ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as fini le tutoriel après 8 heures.
Ouais, c'est ça.
Mais combien de manettes as-tu encastrées dans le mur pour te rendre à tes 3 points de sauvegarde?
Encore zéro, mais il y a eu beaucoup de langage qui s'est développé pendant cette soirée-là. Ça a été.
Un jeu à ne pas jouer avec des enfants.
Non, voilà.
Exact.
Ouais,
non. Merci beaucoup, Jonathan. On va aller avec Steve. Orange et citron.
Bonjour, je vais y aller avec mon orange. Alors, mon orange, c'est encore une fois, je vous force à magasiner. Vous allez tellement dépenser d'argent avec moi, vous allez me détester.
Oh non.
C'est pour le site $6shirts.com.
Oh. Oui.
Comme mentionné précédemment dans ma chronique sur les webcomics, je suis vraiment un fan de t-shirts. Et puis, ce site-là...
On peut voir présentement ton t-shirt Bazinga!
Bazinga! Non, mais c'est mon t-shirt que je porte fièrement de Big Bang Theory. OK, sur ce site-là, vous allez retrouver des t-shirts classés en plusieurs catégories, soit le geek, le gaming, des t-shirts reliés au film, à la télévision, à plusieurs domaines.
La musique.
Oui, puis il y a plusieurs de ces designs-là qui sont soumis par des clients du site. Je vous fais un design, imprimez-en, je vous cède le droit à mon image, envoyez-moi des t-shirts. Ce qui fait que le prix des t-shirts est vraiment bas. Donc, il y a vraiment une multitude, un
c'est
choix incroyable.
Le chandail.
C'est 6$ le chandail.
Plus expédition?
Oui, plus le shipping. Ou 10 t-shirts pour $50.
Ouais.
C'est quand même un bon deal.
Est-ce que c'est américain t-shirts. Ou canadien?
C'est américain. Et puis, leur t-shirt, c'est du American Apparel, qui est quand même d'une bonne qualité de coton.
Puis, pour vrai, là, les qualités des graphiques, que tu peux choisir différentes couleurs de chandail aussi. Mm. T'as le modèle de base, mais imprimé sur des chandails. Il y a une variété de couleurs. Il y a 6-7 couleurs habituellement par chandail.
Ouais, ça dépend du design.
Ça dépend du design. Ouais. Puis c'est vraiment beau, puis c'est drôle. Il y en a
qui
sont
pour ça que vous avez vendu la TV, puis le Xbox.
Exactement. Et okay. On attend nos t-shirts. Là.
On okay. est allé porter notre fille au pawn shop. Alors, c'est ça. Ça, c'est mon orange. Et puis mon citron, tout simplement, est encore lié à ma chronique de webcomic, va aux auteurs de webcomic qui ont des noms complètement impossibles à prononcer.
Oui.
C'est tout. Je me suis enfargé 1000 fois tantôt. Alors, c'est mon citron.
Citron pour toute la gang.
Oui, toute la gang, sauf les Québécois.
Oui, c'est ça. On vous aime.
Ah, ouais, ouais. On
vous aime beaucoup.
Syllabes.
Surtout si vous s'appelez Tremblay.
Ouais, alors, voilà. Pour vrai, c'était mon petit citron parce qu'ils m'en ont fait arracher cette semaine. Voilà!
Bien, merci beaucoup tout le monde. C'était l'émission mensuelle de Geekbécois, le podcast. N'oubliez pas Geekbécois Extra qui se trouve à être un podcast bimensuel qui sera maintenant animé par Steve, votre animatrice. Ce sera lui qui va s'en occuper. Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe de Geekbécois qui étaient avec moi. Nous avons Jonathan.
Oui, merci.
Merci Jonathan, première fois. On adore ça. Lâche pas. Bruno.
Oui.
Alexandra.
Oui.
Merci beaucoup. Merci. Laurent?
Oui, allô?
Merci. Et Steve?
Le plaisir.
Et moi-même, je me dis merci. Merci, Lynn. Hey, merci à toi. Lynn. Hey,
merci, Lynn. Merci,
Lynn.
Hey, bye. Bye, Lynn. OK, bye, tout le monde. Bye.
Pour tout commentaire, question ou suggestion concernant l'émission ou pour communiquer avec l'équipe de Geek Québécois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur Twitter à En commercial Geek Québécois ou sur le site internet au www.geekquebecois.com.
Quelque chose à rajouter, Coy?
Bonne semaine.
J'aime ça. Un, deux, trois, go.
T'es un peu folle de mon toupette.
Oh! Okay. OK? On y va dans 3, 2, 1.
Ça, c'est du live.
Hey, c'était-tu timé avec la tourne?
Ça sera pas long, Lynn.
OK.
On dit un fils de pute et non pas un fils à pute.
Nous allons passer maintenant avec Bruno.
On passe avec Bruno.
On passe avec Bruno.
Donc, oui, c'est ça. Ce qu'on voit aussi, c'est...
Non.
C'est une joke, ça, là.
Comme ça, tu l'avais fermé.
LOL.
C'est ton initiation.
Alright, je me fais couper par un appel.
Oh, que ça va dans les bloopers, ça.
Réponds. Bonjour, appel. Qui es-tu?
Je te dérange, non?
C'est ça.
Non.
Ça, c'est bon. Mais dans le fond, tu recommenceras déjà à la prochaine. Merci.
À vos souhaits.
On l'a installé chez nous, j'ai une petite machine.
Maintenant, nous allons continuer avec... Oh, tu veux dire quelque chose? Oh, non, t'as le bon, OK. Maintenant, vous allez... Voilà, c'est la Friday. OK. Aux deux semaines, il y a le podcast Geek Mais Quoi Extra qui sera maintenant animé par Steve parce que moi, manque de temps et surtout, bon, la santé. Mais non, c'est pas vrai. Ça va bien. En tout cas, il va falloir remettre... Non, on recommence.
Je te voyais.
J'ai rendu dans ma vie, là.
Peut-être
qu'il y avait
un
peu.
Oui, c'est ça. Ils sont à la...
Moi, chez nous, on parle de ça. Je recommence.
C'est parce que c'est une tendance qu'on voit dans les webcomics au début. Mon Dieu, j'ai-tu ronflé? J'ai-tu dormi? On est où, maman? Excusez. Ça, c'était spécial. Alors, comme je disais... Non, mais pour vrai, je suis reposé au bout.
Micro-tiest. Okay,
c'est un power nap.
C'était spécial.
Et que ça va dans les bloopers.
J'ai cligné des yeux, puis... Ça va-tu, Lynn? Oh! Oh! Ah, bon, Lynn est partie.
OK.
J'essaie d'être sérieux en plus. Oui, là. C'est pas ça? Le moment de rire, Lynn.
Mais non.
OK, donc, comme je disais, oui, c'est ça. C'est une tendance qu'on voit souvent dans les webcomics. Au début, ils sont mis à jour quand même fréquemment. Certains... hein? Non, c'était Samia.
VG Cats.
C-A-T-S. Oui,
ouais.
Miaou!
Wouf! VG4! De VG4! C'est beau le partage d'eau.
Bon, excusez. Je suis là.
Lynn, est-ce que t'es revenue?
Oui, okay. Tout là.
C'est parce que tu saignes du nez.
Oui, c'est ça.
OK. Alors...
Hein? Ouais?
Surtout si vous le lisez.
Quoi extra qui sont faits aux deux semaines, qui sera maintenant exclusivement animé par Steve, parce que, bon, ben c'est ça. Non.
Hey, tu fais de la TV, là? À TV, il y a du monde qui niaise.
Hey, moi, là, à cette heure-là, j'ai fini. Ça me prend une demi-heure à faire un show.
On fait un show d'une heure en une demi-heure en TV.
Fuck it, we'll do it live! Il y en a que je suivais déjà. Hein?
Ya!
Yeah. Ya! Yeah.
Pas de l'arabe, pas de
En fait, je vais y aller. J'ai-tu fait un long E?
Je pense que t'as battu des records.
C'est
là.
Ma lettre préférée. Et.
S'il vous plaît.
Ah, oh, je pensais que j'étais venu en chest.
Ah, oui.
Sur ce... Blashla!
Fucker, motherfucker!
It's a rap, bitches!
C'est lui.
Alors, merci beaucoup tout le monde. C'était l'édition mensuelle de Geek Québécois. N'oubliez pas, dans deux semaines, il devrait avoir... Ben, c'est en fait...
D'accord. Ouais, là, Steve, arrête de pas niaiser.
Ou...
Bon, hey, là, ça va être débile, vous allez voir. Ça va être écœurant.
Combien de fois tu vas le faire?
Prise 27.